abordons donc aujourd'hui la quatrième partie de ce 13e atelier sur l'art d'aujourd'hui. Vous savez que les dernières fois, on a travaillé sur un certain nombre de sujets assez clairement identifiés. La deuxième séance, par exemple, était réservée à un certain nombre d'artistes français très célèbres aujourd'hui dans le monde. La toute première séance était plutôt centrée autour de sculpteurs réalisant des œuvres qu'on a situées dans la postérité du pop art, des œuvres souvent très monumentales. Quant à la séance juste précédente, elle avait pour but d'évoquer la peinture et on a passé en revue un certain nombre des peintres, les plus en vue justement dans le monde aujourd'hui. Bien. Aujourd'hui, c'est une sorte de voiture balai, si j'ose dire, que cette séance-là, qui va nous permettre de voir des artistes un peu tous azimuts. J'en ai choisi 10, donc c'est un bon nombre. Je vais vous montrer au départ, un petit peu comme dans la séance précédente, une œuvre de 10 artistes différents. On va donc regarder ces œuvres-là. Comme d'habitude, on va un peu tourner autour, essayer de voir ce que c'est, les analyser, regarder un peu ce dont il s'agit. Et puis dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on se mette un peu à la place, soit d'un conservateur de musée, soit d'un responsable de galerie, que sais-je encore, qui aurait la mission de répartir ces 10 œuvres d'artistes assez divers, finalement, qui sont de pays, d'âge, de sexe différents, de les répartir d'une manière un peu, cohérente. Parce qu'on va voir, ces œuvres appartiennent à des types d'œuvres très divers. Mais l'idée sera donc, dans un deuxième temps, d'essayer de les répartir d'une manière, un petit peu plus cohérente et un petit peu plus pédagogique. Et puis, dans un troisième temps, on verra qui sont les artistes qui ont fait les œuvres. Et là, je ferai le petit jeu habituel pour savoir si peut-être on peut deviner quels sont les artistes, d'où ils viennent, etc. Bien. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Je passe très, très vite sur nos petites règles habituelles que vous connaissez. Et nous abordons tout de suite la première partie qui a pour but d'essayer de regarder les œuvres de ces artistes et de voir un peu de quoi il s'agit. Première œuvre, la voici. Sculpture. Alors on est là déjà devant une sculpture. On peut la décrire peut-être, regarder ce dont il s'agit. C'est un carrosse tiré par un cheval, effectivement. Voilà. Oui, matière, une idée.
Métal,
oui.
Des angles aigus,
oui. Comment est-ce que vous caractériseriez cette représentation d'un carrosse tiré par un cheval?
Une impression de trembler dans les roues.
Une impression de tremblement.
Les roues, oui, sont un peu très géométriques.
Comme si on avait fait des plis dessus.
Comme si on avait fait des plis dessus, oui.
Oui, ça fait penser à l'origami pour le cheval.
Ah, oui.
À côté papier plié, origami, une sorte d'influence japonaise. Vous savez que le papier plié est une des grandes spécialités antiques des artistes japonais, du Japon.
C'est un
attelage à miche.
Un attelage à miche, bon.
Oui, plus. C'est moi.
La carriole à la fin.
Alors tout ça va peut-être vous permettre de savoir de quel pays est cet artiste, qui sait.
États-Unis,
américain. Bon, on aurait donc un artiste américain. En tout cas, une sculpture, une idée de la dimension peut-être.
Assez grand.
Assez grand, oui.
Quasiment grandeur.
Oui, c'est grandeur nature. C'est grandeur nature.
Très géométrique.
C'est en effet très faceté. Et donc, vous avez bien remarqué le côté, en effet, très troublé, j'allais dire. Ça vous rappelle quoi, d'ailleurs? Pardon? Ce côté troublé, très... Un peu comme une image sur l'eau. Vous savez, il y a quelque chose dans l'eau, on met un pavé dans l'eau, pouf, ça se brouille.
Donc,
voilà, un côté un peu chaotique, troublé, mouvant, etc. Bien.
C'est dans quel endroit? Un aéroport?
Je ne sais pas. Je me suis posé aussi la question.
C'est bizarre.
Je ne sais pas. Je n'ai pas d'ailleurs précisément cherché à le savoir, mais comme j'ai essayé de regarder, je n'ai pas vu, donc je l'ai un petit peu laissé tomber. Vous auriez d'autres choses à dire au niveau de cette sculpture? Oui, c'est monochrome, en effet. Parce que un attelage de ce genre n'est pas forcément d'une seule couleur. Là, pourtant, c'est le cas. Hein. C'est donc monochrome. Hein. C'est donc du métal, mais du métal peint. Hein.
Et pas de lien apparent entre le cheval et le carrosse.
Je pense que si. Alors, je ne sais pas si effectivement il y a des liens. C'est pas sûr effectivement qu'il y ait, mais s'il y a peut-être quand même. Ça, c'est la queue du cheval. Ouais. Oui, peut-être effectivement que l'un n'est pas lié à l'autre.
Hein.
Il n'y a aucun personnage. Il n'y a aucun personnage.
Il n'y a effectivement pas de personnage.
Vous disiez quoi, le cheval,
le cheval est fendu comme une bouche devant.
Au niveau du poitrail. Ah là.
Ben oui.
Non, c'est un élément en avant.
Non, mais après, en dessous.
Ah ben en dessous, oui, c'est-à-dire que ça fait partie décidément du côté faceté, hein, vous disiez tout à l'heure, hein, très géométrique. On a là décidément une image distordue, comme si... vous savez, quelquefois aussi au cinéma, ça va très vite, et quand il y a un arrêt sur image, on a comme ça une image un peu trouble, où les bords sont un peu comme ça, mouvants. C'est un peu l'image, en effet, déformée par l'eau, par... que sais-je encore, la vitesse, enfin. Hein ? Bien. Ça vous plaît ? Ouais ?
Ah, mais je ne sais pas.
Non ?
Pas vraiment.
Parce qu'on a le droit de se laisser un peu aller, hein, vous savez, dans cet atelier. Alors, vous n'en avez pas beaucoup profité les fois dernières, alors j'essaie un peu. Hein. Bon. Oui, je sens pas un enthousiasme débordant, mais enfin, si, bon, très bien, parfait. Bien. Allez, on va passer à la pièce suivante. Alors, Coca-Cola.
Oui, mais sur un récipient qui veut faire ancien.
Moderne,
oui.
Alors, on aurait donc un logo récent, Coca-Cola, sur une jarre ancienne. C'est ça ?
Ou qui veut être ancienne.
Ou simili-ancienne. On aurait une jarre ancienne ou simili-ancienne, pseudo-ancienne, avec dessus le logo de Coca-Cola.
Oui.
Mmh. L'idée derrière ça, ce serait quoi ?
Mélanger le futur.
Mélanger
le futur, le présent.
L'ancien présent, oui.
Oui,
provoquer.
Oui, les cultures. La jarre n'est pas américaine. Alors que elle est quoi la jarre d'ailleurs ? Pardon ?
Chinoise ?
Grecque ?
Méditerranéenne.
Méditerranéenne ?
Aztèque ?
Oh ! Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore là ?
Indien d'Amérique ?
Bon, on a eu l'Amérique du Nord, on a eu l'Amérique du Sud, on a eu la Chine. Qu'est-ce qu'on a eu encore ? La Méditerranée.
Bon, c'est africain.
Mais pas parlé d'Afrique, voilà, c'est africain. En
fait.
Bien. En tout cas, alors c'est plutôt, entre guillemets, enfin j'ai l'impression que vous y voyez plutôt une jarre, ce qu'on appelle ethnique, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, hein. Enfin bon, ça veut dire un peu art premier, entre guillemets. Hein. Ce serait ça ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors elle est ancienne ou elle n'est pas ancienne d'ailleurs ? C'est un original ou c'est une copie
C'est une copie.
On peut espérer que c'est une copie. Donc on a une jarre pseudo-ancienne, peut-être chinoise, peut-être américaine, peut-être méditerranéenne, et pourquoi pas africaine. Donc une copie d'après une jarre ancienne sur laquelle on a mis le logo Coca-Cola, pour faire une sorte de go-between entre le passé et le présent, c'est ça l'idée, hein ?
Oui.
Une sorte de publicité, hein ?
Oui, choquante.
Choquante.
Oui.
Okay. Et justement, le côté choquant, qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans, justement ? Qu'est-ce qu'il y a de... Oui. Et ça voudrait choquer... Qu'est-ce que ça voudrait souligner ? Qu'est-ce qu'il y aurait de...
La mainmise de Coca-Cola sur...
Voilà, une sorte de mainmise de Coca-Cola sur...
Sur la culture.
Sur la culture, on va dire ça.
Mmh. Okay. Sur une civilisation.
Sur une civilisation.
Par rapport aux civilisations anciennes qui laissaient leur marque sur...
Oui.
C'est « je suis partout ».
C'est le côté « je suis partout mmh. ». Hein. Bon. Y compris sur le temps. Hein, autrement dit, parce qu'on a là une jarre ancienne avec un pseudo-ancienne.
Peut-être aussi dans l'espace.
Un côté amusant, une dimension un peu humoristique aussi.
Si c'est une fausse jarre, c'est rigolo.
Oui, c'est une fausse jarre, c'est rigolo.
Si c'est une vraie.
C'est une vraie, ça l'est moins. Bon. Ok. L'artiste précédent, vous y voyiez plutôt un artiste américain, si je ne m'abuse. Là, vous auriez une idée peut-être d'un nom, d'une provenance de l'artiste en question.
Il peut être de la même provenance que la jarre.
De la même provenance que la jarre. Donc c'est quelqu'un qui aurait pris une jarre de son pays, entre guillemets.
Enfin, ou imité, ou copié.
Ou imité, ou copié. Ouais. Bof. Tout est possible. Alors là, ça aussi, ça vous plaît ? Qu'est-ce que vous...
Non.
Ouais. C'est mou, comme porte-crayon. Ça a quelle grosseur ? C'est assez gros, oui. Oui, c'est assez gros, hein. C'est une bouche. Hein. Porte-parapluie, bon. Donc on en fait quelque chose d'utilitaire, hein. Bon, ouais. Je sens pas d'enthousiasme démesuré, là, non plus. Hein. C'est mou, hein, ce soir, hein. Bon. Alors, on va essayer de trouver quelque chose qui vous... Hein. Eh ben ça, par exemple, tiens.
C'est une peinture.
Amusant. Une.
C'est peinture.
Alors, à votre avis ?
Non,
peinture.
Sculpture.
Sculpture. Oh, non. Si. Si, parce qu'il y a une ombre. Il y a l'ombre du manteau sur le cou.
Oui, mais ça peut être.
Est-ce qu'elle est peinte entre les
feuilles ? Ah oui, elle a aussi.
Résine. Résine. Donc ce serait la photo d'une sculpture en résine.
Voilà.
Hein ? Bon. Qui représente quoi ?
Une tête. De...
Une tête.
Une femme.
Une femme.
Oh, mais c'est ou un jeune homme, il y a une petite barbe.
Ou un jeune homme, il y a une petite barbe. Donc une tête de jeune homme. C'est donc la ce serait donc la photographie d'une sculpture en résine figurant un jeune homme. Hein ? Okay. À la façon égyptienne.
Oh non,
pas égyptienne. Moi je ne fais que répéter. Hein. À la façon égyptienne.
Non, non.
À cause du, de la barbe et puis du serpent.
Ah, la barbe et le, il y a un serpent.
La mèche là, vers l'oreille, on dirait un serpent.
Ah, la mèche vers l'oreille, un serpent. Bon.
Il y a surtout le nez. Et le nez.
L'implantation du nez est curieux.
Oui.
Curieuse.
Mais les yeux sont beaux.
Grec ?
Oh non.
Un nez grec ?
Non.
Non. Non. Non. Alors, pas égyptien, pas grec.
Hindou.
Qu'est-ce qui reste ? Hindou. Enfin, donc, on aurait la représentation, la photographie d'une sculpture hindoue en résine.
Et c'est cette espèce de turban.
Mais c'est, en fait, c'est le turban.
C'est pas un collage, il y a des photos, on voit des photos en haut.
Un collage, des photos en haut.
Oui, on voit des visages dans le jaune en haut.
Des visages dans le jaune en haut.
Là.
J'hallucine. Tu regardes les nuages.
Je ne crois pas, mais bon.
Tout plus en haut, moi.
C'est le relief.
Indonésien.
Non. Il y a un drôle de truc au-dessus de l'œil droit.
Drôle de truc au-dessus de l'œil droit.
Vers le son œil gauche.
Oui, mais ça peut être un croissant.
C'est un bisou avec un.
Et autour de ce nez, là,
une scarification sur le front.
Ah, scarification sur le front. C'est ces choses-là.
Les choses bleues.
Oui.
Ça, des scarifications. Hein. Ok. Gardons l'idée.
C'est quand même
peut-être. Pardon. Donc, des choses d'ethnique. Hein.
Ah oui.
Avec des yeux clairs.
Ah, les yeux sont...
Derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Le fond ? Oui. Vous voulez dire ?
Derrière le visage,
à droite,
il y a quelque chose.
Ça ?
Oui, ça.
Ça. C'est quoi ?
On dirait du bois.
Enfin, c'est peut-être la résine du reste de la sculpture, puisque vous disiez que c'était une sculpture en résine.
Oh non.
Ah non. C'est une peinture. Peinture ?
Ouais.
C'est un collage. Collage. On voit des
un collage.
Dans le noir, je
une double peinture.
Parce que là, il y a ces blancs. Mmh. Et puis, tu vois, côté sur un
À vrai dire.
Statue en bois africaine.
Statue en bois africaine. Je crois qu'on aura tout dit sur cette œuvre.
Oui. C'est une nationale.
À vrai dire, ça n'est ni une peinture, ni une sculpture. Alors qu'est-ce ?
Du
carton pâte ? Non. Une personne, des chiffons, non.
Un collage ?
Une personne.
Une personne.
Autrement dit, c'est quoi ?
La photo,
autrement dit, c'est quoi ? C'est une photo. Ce que vous avez là, c'est une photo. C'est pas une peinture. C'est pas une sculpture. Alors, ce serait une peinture, ce serait faisable, hein ? Parce que bon, mais une sculpture, non, parce que je vous aurais montré la totalité de l'œuvre. Hein. En général, j'ai fait attention, sauf pour les installations où c'est difficile, mais de vous montrer toujours des œuvres complètes, hein, pas un détail. Hein. Ou alors je vous dis après que c'est un détail. Mais ça, c'est une photo.
Truqué.
Là, c'est une photo.
Truqué.
Alors, ce qui est travaillé, c'est surtout la personne.
C'est la personne.
Hein, la personne qui est travaillée. C'est-à-dire la personne qui est sur la photo est une travaillée, est très travaillée.
Ah oui, parce que
c'est
un rituel.
Pardon ?
C'est une photo de rituel ?
C'est-à-dire ce serait la photo d'un rituel et on aurait pris en photo la personne ritualisée, si j'ose dire.
Non.
Non. Quelque part, parce que à votre avis, cette personne qui est ici représentée, quel est son statut ? C'est qui ? C'est quoi ?
Une actrice, une danseuse ?
Une danseuse ?
C'est une initiation.
Une initiation, bah, c'est un petit peu ce que dit madame, hein, une sorte de rite ou...
Hein. Oui,
ouais. Donc finalement, ce serait une photo ethnographique.
Ou alors un autoportrait
Ah.
Mais le nez a été modifié, c'est pas
possible. Bah, ça a été très, très, très modifié. La figure a été très, très modifiée. Dans une initiation, vous parlez l'une et l'autre d'initiation, de rite. Dans les initiations, les rites de certaines sociétés premières, entre guillemets, on maquille, on scarifie. Vous parlez de scarification tout à l'heure. Hein. On fait plein de choses. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce serait peut-être un autoportrait ? Un autoportrait de qui d'abord ?
Du peintre.
Voilà, donc le peintre. Le peintre ?
L'artiste.
Parce que ce n'est pas une peinture. Hein. L'artiste, ce serait autoportraituré, c'est ça.
Hein ? Mais il y a une bouche.
Ce serait autoportraituré d'une sorte de mise en scène. C'est-à-dire que l'artiste, ce serait mis en scène en se grimant de cette manière. Hein.
Une sorte de Cléopâtre.
Une sorte de Cléopâtre. Vous revenez à l'Égypte, autrement.
Ah, et puis, hein. Son nez, tu étais plus court.
Ah, si le nez de Cléopâtre.
Hein. La face du monde.
Donc, on aurait la photographie, mais qui serait l'autoportrait d'une personne, d'un artiste. Hein.
Non, bah, c'est une femme. C'est une femme.
C'est une femme.
Ah, oui.
C'est une femme. Donc, d'une femme artiste qui se serait autoportraiturée. Mais en se grimant d'une manière spéciale, américano-égyptiano-océano, puisque j'ai eu à peu près tout, sauf ce que c'est réellement d'ailleurs. Ça vous dit rien d'autre, ça ?
Non, c'est pas.
Ah, ben, faudra.
Théâtre, moi.
Quelque chose de théâtral ?
Danse.
Un spectacle ?
Non, c'est pas ça.
Je vous mets sur la route.
Oui.
Alors, ça n'est pas un spectacle. C'est bel et bien la représentation d'une personne, enfin d'une artiste. Vous avez raison, c'est une artiste et pas un artiste. Une photographe qui s'est effectivement autoportraiturée. Tout ça, vous avez trouvé sous les traits d'une civilisation spécifique particulière. Alors, vous avez cité plein de choses, mais pas à quoi ça correspondait.
Birmanie.
Pas Birmanie non plus.
Et c'est pas en Extrême-Orient.
Pas en Extrême-Orient.
Extraterrestre.
Américaine. Mais américaine d'où ?
Du sud.
Plutôt du sud. Plutôt du sud. Plutôt du centre. Pas tout à fait aztèque. Mais on commence à être très proche. Pas toltèque. Maya. Et précisément d'une... Bon, vous savez où sont les Mayas, hein, c'est en gros le sud du Mexique et le nord de ces nombreux pays du sud de l'Amérique centrale, d'accord, Salvador, Guatemala, etc., et Costa Rica, et précisément dans, au nord du Yucatan, hein, au nord de cette péninsule où ont vécu les Mayas, il y a une île qui s'appelle l'île de Jaina. Et bien dans cette île de Jaina, on a trouvé de très 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 nombreuses statuettes en terre cuite, Maya, autrement dit. Et là, l'artiste a repris une de ces statuettes, si vous voulez, pour se grimer de la sorte et pour faire cet auto-portrait que vous voyez. Donc c'est la photo qui est un autoportrait de l'artiste, mais qui s'est transformé, si vous voulez, en une sculpture de l'île Maya de Jaina. C'est ça l'idée. Donc il y a un très lourd travail de modification. Hein. Vous avez parlé de peinture, etc. Vous avez parlé de scarification. Vous avez raison. Là, ce n'est pas de la peinture, c'est une scarification. C'est-à-dire que l'artiste s'est fait scarifier.
Pour de vrai.
Pour de vrai.
Et le nez, c'est de l'argile.
C'est
du body art.
C'est du body art. Hein. C'est-à-dire c'est de l'art corporel. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui devient le médium. Vous savez, on fait de la peinture, de la sculpture, etc. Ben là, le médium, ce n'est pas un bloc de marbre, un morceau de bois, de l'huile et puis une toile et des pigments. C'est le corps de l'artiste qui devient le médium. C'est ça qui est que l'on va malaxer pour faire une œuvre d'art. C'est du body art.
Il y a quand même deux problèmes qui restent. Est-ce que le nez est en argile, mis sur le visage, et puis cette barbe-là, ou le menton?
Ben, le nez est sans doute en argile ou en autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un, il est fait avec des éléments qui ont été rapportés. Hein. Et au menton, vous avez certainement quelque chose qui est de l'ordre d'un maquillage. Voilà. Donc il y a des quantités d'éléments rapportés. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Hein. Le body art, on a l'impression que c'est une chose très actuelle, de fait. Il y a un courant de body art. Mais enfin, on ne peut pas savoir au niveau de la préhistoire. Hein. Mais au moins depuis 3000 ans, c'est une chose très
tous les tatouages. Hein.
Voilà, c'est le tatouage. Hein. Enfin, je veux dire que dans toutes les cultures, y compris les cultures européennes, l'idée de faire du corps une base artistique est une idée très ancienne. Enfin, qui n'est pas rien n'est nouveau. Mais enfin, cette idée-là n'est pas forcément nouvelle. Ce qui est peut-être plus nouveau, par contre, c'est de prendre des photos de ça. Et puis là, que cet artiste, aille piocher dans un vocabulaire qui est tout à fait l'autre que le sien propre, hein, encore que, on verra, et aille jusqu'à se faire des scarifications pour approcher. Si vous
voulez.
Un éphèbe.
Non, c'est une jambe. C'est une jambe
avec
l'apparence,
enfin,
la morphologie.
Oui, c'est une espèce de côté longiforme. Ça vous plaît, ça?
Non.
La scarification, elle est curieuse, quand même. Est-ce que c'est vraiment une scarification?
Pas tout à fait, effectivement. Je vous dirai même tout à l'heure ce dont il s'agit.
On dirait une
implantation.
Bosse.
Oui, c'est une bosse, vous avez raison.
C'est des implantations.
Un implant.
Voilà, c'est une sorte d'implant. Hein, plus qu'une caricature, c'est un implant, effectivement.
Comme Arlan.
Pardon.
Comme la Dijonnaise, comment elle s'appelle, Arlan.
Comme
La plasticienne Dijonnaise qui se faisait mettre des...
Elle est Dijonnaise.
En tout cas, elle a travaillé à Dijon.
Rappelez son nom.
C'est elle.
Arlan, non, quelque chose comme ça.
Rappelez.
Arlan.
Ok, écoutez, on verra. Effectivement.
Non, mais pas elle, je ne pense pas que ce soit elle, mais...
Donc ça vous rappelle la plasticienne Arlan.
Voilà, hein. Qui offrait, par exemple, la Grèce, ça serait de... Elle était une fois à apostrophe, elle a offert à
Bernard Pivot
sa graisse du visage incluse dans de la résine. Bon, la tête à Pivot était à voir.
Bon, c'est un petit cadeau sympathique. Moi, j'aurais accepté. Hein. Bon, ben, voilà effectivement un témoignage intéressant. On en reparlera tout à l'heure. Hein. Donc, de vous citer cette plasticienne qui donc s'avait enlever des éléments pour les prendre ou en ajouter. Ok. Bien. Eh bien, écoutez, nous ajoutons ça au dossier de cette tête. inspiré des statuettes en terre cuite maya de l'île de Raina. Ça vous plaît, ça vous plaît pas? Si, ouais. Autrement, c'est encore assez mou. Hein. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est un bide ce soir. Hein. Total. Alors, on espère que ça va un peu s'améliorer. Ah, c'est plus coloré. Alors, effectivement, c'est dans la galerie des batailles. Hein. Oui, mais elle le sait, donc elle ne va pas... Elle connaît nos règles. Elle sait de qui il s'agit. Donc elle ne va pas dire. Elle pourra dire tout à l'heure. Hein. D'autant qu'elle a trouvé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, physiquement... Donc, effectivement, j'ai choisi cette photo qui est prise dans la galerie des batailles à Versailles. Vous savez qu'à Versailles, du Coin Vouloubre, hein, il y a un certain nombre d'artistes qui sont invités à faire des mises en place de leurs œuvres. C'est une politique assez intéressante. Et là, je trouvais que c'était bien de présenter ça... cette œuvre-là, ici. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Cette œuvre, elle est faite comment? C'est quoi? Quelle est sa taille?
Pardon. C'est de l'art textile.
Une sorte de guirlande, effectivement. Une sorte de guirlande, c'est du tissu, effectivement.
Du tissu, du crochet.
Du tissu, du crochet.
Oui,
du tricot. De la dentelle. Hein. Il y a tout ça. Hein. Quelle taille?
Bah, c'est grand.
Oui, ça fait 10 mètres de long, ça, à peu près.
10 mètres de long et puis 5 de haut.
C'est ça, 10 par 5, hein, c'est monumental. Hein. Et c'est du monumental que vous caractériseriez comment? C'est grand, c'est monumental.
C'est
on dirait un dragon chinois.
Ouais.
C'est joyeux.
C'est joyeux.
C'est léger.
C'est léger.
Irréel.
Irréel.
Un peu bazar, quand même.
Un peu bazar. Ça va dans tous les sens. Il y a aucune symétrie. Il y a des espèces de trucs qui vont dans tous les sens. Il y avait un petit cœur qui pend, n'est-ce pas? Ça va dans tous les sens.
Un petit cœur qui bat.
Ouais.
C'est drôle.
C'est gay.
C'est en opposition avec le tableau.
C'est en opposition avec le tableau. Est-ce que c'est d'ailleurs en totale opposition?
Et non, pas forcément.
Pas forcément, à mon avis, oui. Enfin, chacun voit.
Voilà. Une bataille n'est pas ordonnée.
Voilà, alors il y a des éléments, effectivement, dans les batailles, hein, vous le voyez à l'arrière, c'est une sorte d'accumoncellement, c'est la galerie des batailles. Il hein. Y a les corps les uns au-dessus des autres, des chevaux qui ont la tête en dessous, le train arrière au-dessus, des personnages en morceaux. Enfin, dans la galerie des batailles, c'est quand même, quand on regarde les peintures, hein, ces peintures sont des foutoirs, comme dirait Trump. Non, lui, il faut, enfin, en anglais, j'adore Trump. J'adore ce personnage qui est la honte de l'humanité, à mon avis. On a d'autres, mais enfin, son étude. Et donc, si vous voulez, vous avez des espèces de tableaux avec une sorte de désordre total. Et effectivement, cette œuvre est un désordre total aussi. Hein. Donc, c'est assez intéressant parce que il y a finalement, avec du tissu, etc., des couleurs très vives, il y a une sorte d'accord, mais qui est par certains côtés aussi un désaccord hein, entre les deux. Donc, à la fois, ça marche très bien ensemble, tout en étant très différent. Hein. C'est très cohérent, et en même temps, c'est pas la même chose, mais. C'est amusant de voir comment cet artiste a travaillé de manière, en posant cette œuvre-là, à la fois en s'opposant et en se collant hein, contre l'œuvre elle-même. Oui.
C'est suspendu.
Oui,
on voit trop les
voilà. Oui, c'est plus ou moins mobile parce que tout ça est très mou. Hein. Ouais, c'est mou, c'est du tissu, c'est du crochet, c'est du tricot. Voilà, hein, c'est complètement mou, donc ça bougeaille un peu au gré des courants d'air. Voilà, il y a un petit côté mobile, même si c'est pas non plus complètement mobile. Il y a un côté caravane un peu. Un côté caravane, oui.
C'est un produit viscéral de la guerre.
Oui, il y a en effet un côté tribal, pourrait-on dire. Hein. Alors ça, qu'est-ce que ça vous dit? Sympathique. Ah oui, sympa, ça c'est. Oui, mais en art, vous savez, le mot sympa.
Oui, c'est pas forcément. Oui.
Ça ne fait pas, hein, pour employer une expression très importante.
C'est temporaire, heureusement.
C'est temporaire, heureusement.
Ah, bah, dans la galerie d'images.
Oui, c'est pas que.
Ouais.
Non, c'est.
Et quelle galerie?
Pardon, c'est la galerie des batailles à Versailles.
Ah oui. Hein? Non, c'est agréable.
Ah,
mais c'est bien.
Vous ne mettriez pas ça chez vous?
Bon.
Bien. Et est-ce qu'il y a, au-delà de ce côté mollement désordonné, de ce côté gay, de cette espèce de désordre qui en même temps fonctionne. Est-ce qu'il y a encore autre chose peut-être à...
Alors il y a un seul élément qui pourrait être vaguement humain.
Mm-hmm. Vaguement, oui.
Oui, un petit, avec deux yeux.
Oui, il y a en effet, là, il y a un truc qui est plus ou moins humain. Là, on peut voir une vague girafe. Moi, si on a pas mal d'imagination, effectivement. Voilà, ça fait travailler l'imagination. C'est-à-dire que, en fait, ça représente absolument rien, mais on peut y essayer si on y tient. Parce que vous savez, l'être humain veut toujours retrouver du réalisme là où il n'y en a pas. Hein, voilà. Alors, si vraiment on veut en trouver, on peut effectivement trouver une girafe, un serpent, un lampion chinois, enfin que ce genre, on peut toujours trouver. Hein. Pardon ? On peut rêver, voilà, on peut rêver. C'est vraiment une œuvre assez onirique, effectivement. Hein. Moi, je trouve aussi, vous ne l'avez pas dit, mais je trouve que c'est quand même une œuvre qui est un peu. Vous avez parlé de caravane quand même, hein. Une œuvre qui est un peu en majesté. Hein. Ce n'est pas trois breloques qui pendouillent. Hein. On a là quand même quelque chose. Alors, c'est fait avec des. Il y a des beaux tissus, c'est très travaillé. Hein. Vous ne l'avez pas dit non plus, ça. C'est une virtuosité sidérante. Hein. Vous n'êtes pas là devant un petit crochet fait par une mamie devant sa téloche. Hein. Vous êtes là vraiment devant quelque chose qui est incroyable de réalisation. Hein. C'est un boulot, mais considérable. Hein. C'est un travail de tissu, mais énorme. Hein. Donc on est là devant une virtuosité du fer qui n'a d'égal que les peintures qu'il y a sur les murs. Hein. Voilà.
On n'a pas dit, parce qu'il faudrait avoir c'est pour un grossissement.
Oui, sans doute.
Hein. Tout à fait.
Et il y a, vous voyez aussi un côté, vous parliez de caravane, une sorte de... Non seulement il y a un fer qui est extraordinaire, hein, mais en plus, une sorte de côté monumental et assez majestueux. Hein. En plus, dans la galerie des batailles, ça souligne encore cette dimension-là. Hein. Encore une fois, ce n'est pas trois bouts d'oripeaux qui pendent. Hein. Rappelez-vous, Christian Boltanski, avec ses bouts de tissu posés comme ça, hein, on est vraiment un peu dans l'inverse. Hein. On est là, au contraire, une sorte de majesté du textile. Hein. Travailler, retravailler, voilà. Hein. Donc, il y a une sorte de majesté un peu... qui est un peu entre le ridicule, vous avez parlé un peu d'humour, c'est rigolo, et puis en même temps, qui prend des airs, hein, en plus à Versailles, hein, c'est quand même très chic. Donc vous voyez, on est dans cette espèce d'entre-deux-là, c'est drôle tout en étant sérieux, c'est majestueux tout en étant dérisoire, c'est des tissus, c'est-à-dire ce qu'on porte tout sur nous, et en même temps, c'est super bien réalisé. On est là dans une espèce d'entre-deux assez remarquable. Bon... J'ai cru comprendre que ça plaisait à certains, un peu moins à d'autres. Ouais. Que c'était sympa. Hein voilà. Allez.
Ah.
Ça, c'est vraiment géométrique.
Alors, c'est une peinture ou pas ?
Alors, c'est quoi ?
Un trou jaune.
Peinture.
Alors, si c'est fait à l'acrylique... C'est remarquable parce que c'est très difficile de faire des nuances comme ça.
Ah bon ? Oh. Donc on aurait en fait une peinture plane, c'est ça ?
Oui.
Une sorte de trompe-l'œil. Oui. On a fait un atelier sur les trompe-l'œil il y a quelques années. On aurait donc un trompe-l'œil. Hein. Donc une peinture trompe-l'œil. Hein, c'est-à-dire en fait c'est plat, mais la peinture donne l'impression du trou.
Je
ne
suis pas sûre.
C'est ça ? Vous n'êtes pas sûre ?
Ça peut être ça.
Ça peut être ça.
À moins que ça pénètre, parce qu'il y a une cloison. Ça peut aussi être une forme... Alors, est-ce que c'est la cloison et un enfoncement dans la cloison ?
Quel est votre avis ?
Ou un relief ?
C'est plat.
Alors, deux solutions. Soit c'est plat et c'est une peinture trompe-l'œil qui simule le trou. Soit c'est pas plat et c'est une vraie sculpture qui est un trou dans le mur. Enfin, un trou.
Un enfoncement.
Voilà. Un engloutissement du mur. Voilà, un creux. Donc la toile est en creux.
La pièce est raccourcie.
Mais oui, une cloison. Hein.
Le plafond est raccourci. Autrement dit. Autrement dit, il y a une profondeur. Donc vous êtes plutôt pour, non pas une peinture en trompe-l'œil, mais une vraie peinture en creux. Enfin, une sculpture. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait un vrai creux dans la cloison. Autrement dit, ça serait une vraie ombre et pas une fausse ombre simulée à la peinture.
Quand on voit le plancher, on a l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose derrière.
Quelque chose derrière. Alors, vous décidez pour quelle solution ? Une peinture en trompe-l'œil ou une sculpture ?
Sculpture, parce qu'on voit que le mur... on devine le mur.
Oui, c'est une cloison.
On voit que c'est une cloison.
On voit que c'est une cloison. Bah, vous avez raison, c'est une cloison. Hein. Voilà. Effectivement, vous le voyez notamment là-haut. Hein.
Mais oui.
Vous voyez que c'est une cloison qui a été mise là, qui a coupé cette salle. En fait, les portes se trouvent normalement au milieu d'une salle. Et là, elles ne sont pas au milieu d'une salle parce qu'il y a une cloison qui a été construite.
Hein. Ça ne solutionne pas notre problème.
Si.
Si.
Oui, pas forcément. Parce que ça peut être une peinture en trompe-l'œil sur une cloison.
Oui, mais ça justifierait quand même.
Mais ça justifierait quand même, parce qu'après tout, la peinture en trompe-l'œil, on peut la faire sans construire le cloison.
Non, elle commence après. Donc c'est forcément...
Autrement dit, on a effectivement là une cloison qui a été construite pour mettre dedans ce creux, entre guillemets, hein, parce que c'est un vrai creux. Donc c'est pas une peinture plate qui imite le creux, c'est une cloison pas plate, une cloison avec un cercle embouti en creux au milieu. Hein. Et donc la peinture est faite en carré et intègre ce creux. D'accord ? C'est clair ce que j'ai dit là ?
Ouais.
Alors le but, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette œuvre-là, finalement ?
Et le tissu est collé dessus ?
C'est pas un tissu.
C'est du plastique.
C'est pas du plastique.
C'est du métal.
C'est pas du métal.
La peinture sur du genre de plastique ?
C'est c'est à vrai dire pas. C'est une sorte de peinture. C'est un peu spécial comme type de peinture. C'est fait à partir de quoi, les peintures ? Voilà. En fait, c'est plutôt des pigments. C'est pas de la peinture, de la bonne peinture à l'acrylique qu'on a passée. C'est plutôt des pigments qui sont collés sur une sorte de mur en staff, si vous voulez. Donc vous avez un mur en staff avec ce creux, moulé en creux.
Ah, voilà.
Et de la peinture, appelons ça comme ça, mais qui sont plutôt des pigments que l'on a fixés au carré dans ce mur en staff. D'accord ? Pourquoi est-ce que je fais une différence entre les pigments et la
peinture ? Il n'y a pas de liant.
Voilà, il n'y a pas de liant. Hein. Donc, c'est quelle est la...
Mais ça peut être pulvérulent.
Voilà, c'est plus pulvérulent. Voilà, c'est ça. Hein. Hein, c'est plus léger. En gros, alors c'est pas le cas là, parce que c'est quand même collé, hein, mais si on souffle dessus, ça peut partir. Hein. Donc il y a un côté plus léger. Vous voyez, c'est pas le bol de peinture, pas l'huile, hop, qu'on passe. Non, c'est quelque chose qui est délicatement posé comme ça. Hein. Bien. Alors le but d'une œuvre comme ça, c'est quoi ? L'idée, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière ?
Faire réfléchir le
spectateur.
Ça fait bizarre,
c'est creux au milieu et bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre, finalement ?
On
se pose des questions.
Ce qui choque quand même, c'est le côté très classique des parties en bois.
En bois. Ah, c'est
qu'est-ce que vous appelez en bois ? Ah, ça.
C'est la partie à gauche.
Les portes.
Les portes.
Mais c'est la salle.
Et puis, c'est ce en truc...
Pas plus qu'à Versailles.
Ça choque ?
Non.
Ah oui.
Non. Ah non. Du tout.
Ça rappelle.
C'est un musée.
C'est bien. C'est beau, ça.
On
va dire c'est peut-être le but. Le but, c'est peut-être effectivement de suggérer ce que vous avez d'ailleurs bien dit, c'est-à-dire que ça étonne, que ça surprend, que c'est bizarre, que, entre guillemets, ça choque. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans un lieu très classique, je ne sais pas ce que veut dire un mot classique, hein. Enfin on va dire très classique, avec des portes, des corniches, de la dorure, tout ça est parfait, n'est-ce pas ? Parfaitement occidental, au 19e iso, enfin bref. Et boum, au milieu de ça, on a cette chose, n'est-ce pas, qui vient couper l'espace et qui, au milieu de ce vocabulaire très traditionnel, on va dire, propose quelque chose qui, évidemment, est un peu spécial.
Mais c'est pratiquement classique.
Mais c'est pratiquement classique aussi, parce qu'effectivement, le classicisme, c'est jamais rien qu'il y a une grande sobriété, quoi. Évidemment, le classicisme, on va avec les portes, hein. C'est après tout, le classicisme, des carrés dans des murs, hein. Voilà. Voilà. Poussin est un très grand classique, et c'est très sobre aussi. Hein. Voilà.
Je préfère ça au machin précédent.
Ah oui, moi aussi.
Donc, il y a effectivement ici la volonté de dérouter, hein,
de déranger,
mais de déranger finalement pas tant que ça, effectivement. C'est, oui, ça dérange parce que on est, tu vois, c'est bizarre. D'abord, ce creux, est-ce que c'est un creux ou pas un creux? On s'est posé la question, on a mis 5 minutes pour résoudre. Quand même, hein. Et on serait dans la salle, ce serait pareil. Hein. Donc,
ah
bon, c'est.
Oh non,
dans la salle.
Ben, moi, je me suis laissé prendre plus d'une fois avec cet artiste. Hein.
Ah oui.
Ouais. Et il y a quand même une volonté de comment dire, de faire se questionner le spectateur, hein, et puis en même temps de j'allais dire de rentrer un peu dans le en osmose avec ce qui se passe. Alors évidemment autour, vous avez bien vu que les portes, la corniche, tout ça ressortait d'un autre vocabulaire, mais que quand même finalement il y avait une certaine cohérence.
Il y a un côté somptueux en harmonie avec les dorures du plafond.
Oui, c'est vrai. Oui, une sorte de dorure pigmentée, donc effectivement une somptuosité un peu différente. Donc on est dans quelque chose qui à la fois surprend, est en cohérence parfaite, étonne, mais pourtant appartient au même vocabulaire, choque, tout en étant dans la parfaite lignée.
Ça fait un peu quadrature du cercle.
Quadrature du cercle.
Sérieusement, vous avez un carré qui représente la Terre, etc. Et puis vous avez la transcendance qui est le cercle.
Donc vous y verriez en même temps une dimension plus
spirituelle,
peut-être métaphysique, etc. Hein, c'est-à-dire pas simplement quelque chose de, j'allais dire, d'esthétique, pas simplement un carré avec un cercle, et puis qui cherche un peu esthétiquement, hein, à nous surprendre, hein, mais en même temps quelque chose qui se creuse là, qui en est pas un tout en étant un, quelque chose qui va vers quelque chose de plus spirituel, hein, ok. Ça vous plaît?
Oui,
ça vous plaît. Ah, là, je sens.
On n'est pas où, là. Hein,
là, je sens un oui franc et massif. Oui. Ah, ben, au bout du cinquième, j'ai réussi à faire ce qu'il y a. Ah, je me sens beaucoup mieux. Hein. Une idée, tiens, on n'a pas vu, là, pour l'artiste précédent, te, puisque. Non, c'était. Attendez, oui. Pour celle-ci, on n'a pas vu de qui il s'agissait. Quel pays, j'entends?
Mais si, américaine.
Une mexicaine, et là
bah, elle est Amérique du Sud. Elle a un nom.
Chantal.
Amérique du Sud.
Oui, un nom consonance hispanique.
Ou espagnol.
Espagnol. Et là.
Ah, bah lui, il est anglais.
Oui, anglais.
J'en sais trop rien. Je sais qui c'est, mais je sais pas ce qu'il est.
C'est un homme.
Ah, il y a des chances. Mais en fait, il y a deux. Il y a 50% de chances. Hein.
Ouais.
Bien. Un homme anglais?
Je ne sais pas.
Eh bien, on va voir.
Non.
Ça, c'est la sixième œuvre que je vous propose.
C'est une œuvre. C'est une œuvre. Même la photo.
Ah, ben, même la photo.
D'accord.
Un autoportrait.
Après, il y a un texte.
Alors, de quoi est fait cette œuvre?
Trois éléments.
Il y a un texte, un paysage et un portrait.
Ah ben c'est le portrait qui l'emporte.
Ce portrait, ce paysage, ce texte, ils sont en quel matériau? C'est quoi comme type de médium?
Photo.
Donc il y a en effet une photo, ça.
Une photo.
Une impression.
Oui, une impression. Hein, c'est un texte tapé à l'ordinateur, hein, ou à la machine, je ne sais pas, et puis qui est là dans son cadre. Hein. Voilà. Hein. Donc on a deux photos et un texte. Hein. Bien. Chaque pièce est encadrée. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi?
Une dominante de mauve.
Du moins pour le paysage. Mmh. Ouais.
Est-ce que le texte, c'est une explication?
Ah, est-ce que c'est qu'il y a une explication?
On aimerait bien.
Cette explication, ça pourrait être l'explication de quoi?
L'explication de la photo, mais...
du rapport, peut-être.
Donc l'explication du rapport entre les deux photos. Autrement dit, vous avez deux photos et le texte serait là comme une légende des deux photos. Mm-hmm. Bah, regardons les deux photos.
On voit pas grand-chose.
La photo du dessus.
Le
portrait est entouré de blanc. Oui, ça c'est l'encadrement, effectivement. Et en bas, c'est en noir. Quand on regarde le portrait, est-ce que ça peut vous suggérer quelque chose?
Concentration.
Non, désabusé.
Désabusé.
Une nature très exubérante.
Une nature luxuriante à l'arrière.
Oui.
Mais un personnage un peu désabusé. Pourquoi?
Cette bouche.
Il a l'air.
Et c'est...
Et le regard.
Un regard. Un regard inerte.
Un prisonnier.
Un prisonnier.
Oh non.
Oui, pourquoi pas.
Un prisonnier qui a un regard inerte. Quelqu'un qui est, pardon. Ah, quelque chose dont la destruction du littoral. Donc quelqu'un qui est désabusé parce que son littoral est détruit.
Hein. Non, il peut admirer, au contraire.
Ou alors il admire.
Il admire et regarde le paysage.
Il admire et regarde le paysage.
Oui.
Ouais.
Est-ce qu'il est en
chair et en os? Ah, il est en chair et en os. C'est un vrai monsieur.
Hein. C'est l'artiste
qui voit tout le temps. Ça.
Un paysage qui voit tout le temps. Ok.
C'est l'artiste.
Intéressant. Oui, c'est l'artiste. Donc c'est l'artiste qui serait autoportraituré, là aussi, et qui, en bas, montre un paysage qu'il aime bien, qu'il voit tout le temps, qui est un peu son paysage.
Ce qu'il est en train de regarder.
Ce qu'il est en... Pardon. Il est enfermé sur une île, donc c'est...
Il rêve de liberté.
Voilà, il rêve, de liberté. Ah, il rêve d'un lointain, d'un ailleurs. Hein. Ouais,
est-ce que c'est
intéressant.
Les deux traits en bas, là, dans la photo.
Oui, un exilé, un exilé qui regarde son ailleurs, hein, qui rêve à,
Au retour, oui.
Qui rêve au retour.
Il communique par lettre avec les gens.
La lettre donc serait plutôt quelque chose qui lui permet de communiquer vers l'extérieur.
C'est peut-être le jugement de sa condamnation.
Ah, sa condamnation, c'est un...
On est très humaniste.
L'idée de... Ah, mais c'est bien.
Oui, mais alors, la photo de l'homme domine de beaucoup la nature, le paysage.
Voilà, la photo de l'homme vraiment domine. Hein. On sent bien que la photo, c'est l'élément important et qu'on a là des éléments qui expliquent en quelque sorte la photo. Hein.
On aimerait bien lire le texte.
On aimerait bien lire le texte, ça c'est juste. Hein. Mais si on le lisait, vous auriez la solution.
Ben ça
c'est pour ça que regarder, c'est important, parce que ça... Mais à vrai dire, même si à la fin vous êtes un peu égaré, vous avez presque trouvé au départ ce dont il s'agissait. Je prendrai deux choses. Ça va peut-être vous faire, trouver. D'ailleurs, il y a deux personnes dans la salle qui, à mon avis, pourraient absolument trouver. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Il y a deux choses que vous avez notées. Un, vous avez dit, il a un regard vide, éteint... Deux, vous avez dit, le paysage, c'est un paysage, on a l'impression que c'est un paysage qu'il voit tout le temps, c'est son paysage de référence. C'est vraiment un paysage, hein, c'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, c'est vraiment le paysage qu'il voit. Ça vous met pas sur la voie. Ça.
L'exil.
Pays d'origine, l'exil.
C'est un prisonnier.
Prisonnier.
Il est aveugle.
Il est aveugle. C'est pour ça que je pensais à deux personnes ici et là. Mais en l'occurrence, tu as un peu trouvé. Il est aveugle. Il est aveugle. Et en fait, à votre avis, ça, c'est quoi?
C'est l'imagination.
C'est ton paysage décrit.
En fait, c'est effectivement son paysage. C'est-à-dire, c'est le paysage auquel cet aveugle pense.
Et il l'a vu?
Alors,
est-ce qu'il est devenu aveugle ou...
C'est ça. C'est-à-dire que l'artiste a demandé à l'occurrence à un certain nombre d'aveugles, dont celui-ci, quelle est la dernière vue qui est la sienne, en tout cas la dernière vue auquel il se réfère. Voilà. Son paysage, en quelque sorte. Et bien là, cet aveugle, son paysage, la vue qui est la dernière vue qu'il a marquée, sa dernière vue, c'est ça.
Et c'est du braille à côté?
Non, c'est une écriture normale qui explique que pour nous autres voyants ce dont il s'agit.
Ah oui.
Voilà. Donc on a là une œuvre avec un aveugle qui ne voit pas par définition, hein, mais ce qu'il voit quand même, c'est-à-dire ce qui est son paysage, voilà, ce qui est sa vue.
Il
voilà, il l'a vu. C'est le dernier. Elle a essayé de reconstituer, d'après ce que l'aveugle lui a dit, le paysage.
Elle.
Ben voilà. Encore que la personne, hein, un homme peut être une personne. Hein.
C'est pas la peine de se rattraper.
Oui, je me rattrape aux branches. Oui. Voilà. Hein. Mais enfin, ça ne nous dit pas de quelle nationalité cette personne. Donc, il reste encore à trouver.
L'artiste ou l'aveugle?
Alors, en tout cas, cette œuvre où vous avez maintenant trouvé, je vous ai un peu aidé, hein, vous avez trouvé le système, enfin, c'est vous quand même qui l'avez trouvé. Hein. Cette œuvre. On pourrait la qualifier de quoi, comment, quel genre d'œuvre c'est, quel type d'œuvre s'agit-il? C'est une sculpture, c'est une peinture, c'est une tapisserie, c'est un objet d'art, c'est une photo, c'est une mise en scène.
On a bien l'impression qu'il y a les trois. Une photo, une peinture et un texte écrit.
Oui. Alors, en bas à droite, c'est une photo aussi, mais qui a un petit air de peinture, c'est vrai. Mais c'est une photo. Hein. Ah oui, c'est une photo. C'est une photo prise par la même personne. Une personne qui est peut-être un homme, hein. Par la même personne. Ah ben si, une. Hein. Et voilà. Et donc, cette personne a fait une photo qui reconstitue le dernier regard conscient, si j'ose dire, hein, de l'aveugle en question.
Est-ce qu'elle a des liens particuliers avec cet
aveugle ? Non, personne qu'elle ne connaissait pas. Ce monsieur est une personne que la personne qui a fait l'œuvre ne connaissait pas.
Et la photo du paysage, c'est vraiment la photo du lieu ou c'est une reconstitution à partir de l'écrit ?
C'est, disons que l'homme a décrit à l'artiste ce qu'il avait vu. Elle a essayé de refaire la même chose. Alors, c'est peut-être... après, ça dépend évidemment de la précision. Peut-être que la version, elle a dit, ben voilà, j'étais au bord du rivage à tel endroit, de tel endroit... et j'ai vu ça, essayé, voilà. Hein. Mais évidemment, ça différait avec chaque aveugle, si vous voulez. Hein. Il y a eu qui disait, écoutez, moi, je me rappelle très bien, je me rappelle avoir vu un pot d'eau sur une table. Bon, quelle table, quel pot d'eau. Mais d'autres qui pouvaient dire, écoutez, voilà, j'étais à 3 cm du rivage, il y avait du sable par terre, le soleil était à 20 mètres, enfin, vous voyez. Hein, et j'étais à 2 mètres de Brest, quoi. Voilà, enfin.
Donc c'est la photo d'une peinture.
Non, c'est la photo. C'est une photo.
C'est une photo.
Elle a reconstitué, à partir de ce que l'homme lui a dit, elle a reconstitué, elle a fait la photo de sa dernière vision consciente. Peut-être du regard, quelque part. Sauf que le noir est pour nous une idée de deuil en Occident. C'est pas le cas ailleurs. Hein. Le noir est une idée de deuil en Occident. Hein. Dans d'autres territoires du monde où c'est plutôt l'inverse, où c'est le blanc, le deuil. Hein. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une différence, vous l'aviez noté d'emblée, d'ailleurs, de statut. Hein. La photo, elle a un encadrement blanc. Le reste, c'est noir. Donc, il y a effectivement une organisation de cette manière. Donc, cette œuvre, encore une fois... peinture, sculpture, à quel courant artistique on pourrait à quel nom on pourrait donner à un courant artistique, à quel artiste, c'est qui après tout diffère beaucoup des autres.
Une installation.
Voilà, on pourrait dire que c'est une installation.
Une composition.
Une composition, oui. En mettant une installation, c'est souvent, provisoire. Là, cette œuvre-là, elle doit toujours être présentée comme ça. Hein. Tiens, si vous la présentez ici ou bien à New York, c'est comme ça que vous la présentez. Donc, une installation, il y a une dimension de hasard. Vous ne faites pas la même chose quand vous êtes ici ou ailleurs. Hein. Donc, c'est toujours comme ça. Mais quelle est, par exemple, la différence entre ce qu'on a vu avant, vous savez, ce trou jaune-là, et ça ? Ça, c'est ethnographique ?
Oui,
oui. L'autre était symbolique.
Symbolique ?
Celle-là, l'autre
était symbolique, ça c'est plutôt ethno. Les deux sont
un peu conceptuels, il y a quand même quelque chose de...
conceptuel, donc on aurait là quelque chose de... Ouais. Oui, je pense évidemment qu'on peut donner ce mot-là, c'est-à-dire quelque chose qui... C'est le concept qui fait œuvre, c'est-à-dire qu'il y a une idée, on dirait toute œuvre d'art, il y a une idée, mais après on le fait. Mais là, c'est vraiment l'idée qui est, très très simplement mise en œuvre, pour faire œuvre, justement. Parce que dans la pièce précédente, on a quand même une sculpture. C'est-à-dire qu'il y a un geste pictural, sculptural, formel. Hein. Là, c'est... On demande à un type quelque chose, paf, on le tape à la machine, on fait une photo de ce qu'il dit, et on fait une photo du gars, quoi. Donc c'est pas... Il y a, la création, elle n'est pas tellement dans le gars qui a la tête qu'il a, ni dans le texte qui est celui qui l'a dit, ni dans le paysage qui est celui qui est le paysage. Hein. C'est plutôt dans l'agencement des trois. Donc, en effet, c'est vraiment le concept qui est à la base même. Donc, on pourrait dire que c'est une œuvre, évidemment, conceptuelle. Ça vous plaît, ça ?
Mais c'est un message de dernière lumière.
Oui, ah oui, effectivement. Ah oui. Oui, il y a derrière ça une idée de message, parce que le but est aussi de nous faire réagir par rapport à ça. Hein.
C'est pathétique.
Pas d'éthique.
Oui.
Oh, aussi loin que l'œil peut voir. L'œil peut voir.
Moi, c'était loin que l'œil peut voir.
What do you think about it?
Nothing.
Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus?
Alors, et là, au contraire, c'est fermé.
Fermé.
Et même la deuxième, le deuxième plan est fermé.
Mm-hmm. Où est-ce qu'elle est, l'œuvre, dans tout ça? Ce sont les lettres, c'est le, la phrase. Les portes,
ça. Ah oui, c'est les lettres, c'est la phrase, c'est l'endroit où c'est mis. Ouais.
Oui, parce que les portes sur les côtés invitent à aller voir derrière et tourner en rond.
Ouais. Oui, parce que vous avez bien dit la phrase, hein, aussi loin que l'œil peut voir, hein, aussi loin que l'œil peut voir, mais bizarrement c'est sur un mur qui ne permet pas de voir.
Hein.
On peut voir sur les côtés, mais sur les côtés, il y a des portes qui donnent sur, en gros, un mur.
Oui, mais la lumière des trous, enfin, des portes.
Ouais.
N'est pas la même, on dirait qu'il y en a une qui est éclairée dans le mur blanc, ça donne une impression de proche.
Bah, disons qu'il y a sur le dessus en effet un éclairage qui est sans doute d'ailleurs naturel, hein, qui donne un peu là-dessus. Mais il y a effectivement une distorsion entre la phrase et la réalité. Aussi bien que l'œil peut voir, en fait l'œil il voit rien parce qu'il y a des
buts.
Il bute.
Donc là, on ne peut rien voir finalement.
En fait, on ne peut rien voir, alors que la phrase invite au contraire à voir.
Est-ce qu'il y a un rapport avec la photo précédente?
Oh non.
En quoi il y aurait un rapport?
Ah oui, c'est pas
parce qu'il était aveugle.
T'es aveugle. Donc on verrait finalement dans les deux œuvres une sorte de rapport. Ouais. Ce sont tous des artistes différents, mais effectivement, il pourrait y avoir un rapport. Finalement, le rapport, vous le situeriez où? Alors que les artistes sont forcément différents. Hein.
Ben, c'est dans l'imagination.
Dans l'imagination. Ouais. Ça parle Dieu à chaque fois, d'ailleurs.
Dieu, comment dire ?
Avec un Y.
Et avec, c'est la zone, il ne peut pas voir.
Ouais.
Comme s'il y avait un mur, quoi.
Ouais. Alors, c'est vrai que, quelque part, assez bizarrement, les deux œuvres sont de deux artistes différents, hein, homme ou femme, et de nations peut-être différentes. Ces deux œuvres, finalement, parlent un peu de la même chose.
On nous empêche de voir. Mmh.
Et là aussi, cette œuvre-là, elle appartiendra à quel type de courant artistique? Ça aussi, c'est conceptuel. C'est-à-dire que c'est quelque chose où l'œuvre n'est pas, c'est pas des petits gugus avec des petites fleurs sur une toile avec un joli cadre qu'on met au-dessus de son buffet, comme ça, la belle-mère le voit le dimanche. Non, c'est une œuvre qui est, au contraire, une œuvre où il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, c'est une œuvre conceptuelle. C'est-à-dire que c'est la phrase qui doit ouvrir sur autre chose. Quoi. Et c'est effectivement un concept qui est très très simplement, il y a une phrase, elle est mise, point à la ligne. Quoi.
Qu'est-ce qu'on en fait après?
Oh ben, la même chose qu'en n'importe quel œuvre d'art. Vous pouvez la jeter à la poubelle, vous pouvez la mettre dans votre salon.
C'est pas dur à copier, ça. C'est un peu...
Vous pouvez la copier si vous voulez, d'ailleurs.
Ah bah oui, non, oui.
Eh ben voilà, en fait c'est ça. C'est-à-dire, on peut la copier, mais on ne le fait jamais.
Non.
Ouais.
C'est triste, c'est clos.
Triste ?
Ah oui,
c'est
oui.
Triste, parce que c'est gris et noir.
C'est clos.
C'est clos.
Non, mais puis on...
Ah ben bah, c'est un univers clos, oui.
Ça signifie que l'homme ne regarde jamais
le noir. À vrai dire, ça peut signifier tout ce que vous souhaitez mettre dedans.
Oui. Non.
C'est-à-dire qu'effectivement, on a... Mais vous savez, comme n'importe quel poème, hein, pour lisez les poèmes, qu'est-ce que vous voyez? Sinon des lettres noires sur un fond blanc.
Oui, c'est ça.
C'est bizarre que le changement d'échelle pose tant de questions. On voit un haïku japonais, pas de problème. On voit l'équivalent sur un mur, ça en pose. C'est curieux, ça. On est vraiment étrange. Le changement d'échelle fait que tout de suite, ça change de dimension. Un poème, il doit forcément être en petit dans un livre.
Non, il peut être en grand, mais ça
peut être
en... Est-ce
grand.
Que ça, c'est un poème?
Est-ce qu'un haïku japonais qui dit « l'eau tombe dans la flaque », c'est un poème? À mon avis, oui.
C'est même pas une fiction.
Ça, non, c'est pas un poème.
Après, chacun, il voit midi à sa porte. Hein. Mais vous savez, les poètes, il y en a de toutes sortes. Hein. Quand vous lisez un poème de Mallarmé, c'est pas du Gérard de Nerval. Hein. Et quand vous lisez encore une fois des haïkus qui, quelquefois, datent du XIIIe siècle, hein, vous seriez surpris de ce que ça contient. C'est-à-dire, quelquefois, rien d'autre que ça.
Voilà. C'est plus modeste. Là, c'est une phrase qu'on nous impose.
Eh oui.
Ouais, on évite de lire.
Ah ben, un poème, en même temps, si on ouvre le bouquin à la page, on va lire la page où il y a le poème. Oui, hein, ça. Donc, c'est un peu pareil. Là, alors, après, vous ouvrez le livre et voilà. Oui, la matérialité des choses fait que...
Hein. Mais c'est dans l'espace, alors que sur un livre, c'est sur un plan.
Oui, oh, bah, mais le livre, il est dans l'espace aussi.
Ah non,
aussi.
Parce qu'il y a quand même les deux ouvertures.
Oui, mais il y a les côtés du livre.
Voilà. Chaque chose a sa singularité. Mais finalement, il y a des tas de choses aussi qui sont proches les unes que les autres, Ça vous plaît, ça ?
Non.
Non. Non. Non. Non. Ah si, il y a quand même. Hein. Il y a un dissident. Oh, ça, alors là, est-ce que c'est un élément important, ça ?
Non.
On en parlera peut-être la prochaine fois, d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est important, ça, la question du prix ?
Pour les... Les vendeurs, les
acheteurs. Ah ben peut-être vous voulez l'acheter, c'est pour ça.
Non.
Ah. Non. Alors dans ces cas-là, est-ce que c'est important la question du prix ?
Il semblerait que
dans l'art contemporain, oui,
Oh.
C'est triste.
Bah, pas forcément. C'est-à-dire que si le prix, il dépend des gens qui achètent.
Ouais.
Voilà. S'il y a personne qui achète, bah, le prix il est bas. S'il y a des gens qui achètent, le prix il est haut. Hein. Mais quand vous achetez des tomates le matin au marché, c'est pareil. Hein. Si tout le monde voulait des tomates, vos tomates, elles vont être chères. Hein. Si, voilà, enfin, vous voyez, en fait, ça dépend vraiment de... Ça dépend de l'offre et de la demande. Hein. C'est pareil en art, toujours. Si beaucoup de... Donc, le prix, il est vraiment fait par l'offre, enfin, la loi de l'offre et de la demande. S'il n'y a personne pour acheter, ben, les prix vont être bas. S'il y a beaucoup de gens pour acheter, ils risquent d'être haut. Voilà. Tout simplement. Mais on parlera de ces questions de coût. Hein, c'est... Alors là...
Un aquarium.
Un aquarium.
Et un visage, une tête.
Il y a un visage.
C'est la crise dans un aquarium.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement un visage dans un aquarium.
C'est pas une artiste qu'on a vu déjà ?
Pardon ? Non, non, on n'a pas vu. Non, on n'a rien vu de cet artiste. Les chevaux de tout à l'heure ? Ah !
C'est Hearst.
Vous pensez à Damien Hearst ? Ah oui, non. Non, c'est pas lui. Ah, oh, ben, on peut faire des aquariums sans être Damien Hearst.
Ça fait penser à des vireuses.
Pardon ?
Oui.
Il n'y a pas d'éléments vivants ?
Un poisson, peut-être.
Il y a peut-être un poisson. Pour tout vous dire, il y a même un Bernard l'Ermite.
Ah.
Là.
Oh, alors c'est le résidu d'un naufrage.
Le résidu d'un naufrage.
Est-ce que c'est une légende, un mythe ?
Une légende.
Mais c'est curieux, ces rochers, ils ont des formes.
Il y a des rochers.
Des formes.
Il y a effectivement des rochers, il y a un visage, et il y a un petit Bernard l'Ermite, là. Il fait quoi, d'ailleurs ?
Il
dort. Oh, on le devine, hein, c'est un aquarium. Dans un aquarium, on ne voit jamais grand-chose. Hein. Le visage, vous le voyez ?
Ah oui, oui.
Hein ? Il ne vous rappelle rien, ce visage ?
Aussi.
Ah, il vous rappelle quelque chose ? Monsieur.
Il est couché
sur le côté. Voilà un œil, voilà l'autre, voilà le nez, voilà la bouche.
Alors c'est une tête coupée ? C'est une tête coupée ?
C'est une tête coupée ?
Non, je sais pas.
On dirait un brancusi.
Oui.
C'est d'ailleurs pas qu'on dirait un brancusi.
C'est
que c'est un brancusi. Vous connaissez Brancusi ?
Oui.
Hein ? Un des grands maîtres de la sculpture du début du XXe. Ah, c'est de l'antiquité pour nous, hein. Voilà. Donc Brancusi est un sculpteur du fin 19, début 20e. Est-ce que vous allez... Alors, ça n'est pas un Brancusi, c'est la copie de Brancusi, hein, qui est donc mis à l'intérieur.
C'est comme le vase tout à l'heure.
Voilà. Et donc, elle est mise dans un aquarium. Cette tête de Brancusi, elle se caractérise par quoi ? Comme Brancusi lui-même, d'ailleurs. Alors, c'est de la sculpture.
C'est
la sculpture très...
L'arête du nez...
Oui, c'est ça, c'est très précis. Hein. Le nez, les sourcils, tout ça, c'est des arêtes assez vives. Hein. On est dans une... Voilà, c'est ça, hein. C'est très minimaliste, finalement, mon cousin. Hein. Ça
date du... Mais toujours très poli.
Toujours très poli. Hein. Très, très poli. Hein. Donc, une sculpture très précise, très parfaite, très lissée, très polie. Hein. Ça, c'est mon cousin.
Pourquoi avoir voulu de mettre avec un Bernard l'Ermite.
Pourquoi l'avoir voulu le mettre dans un...
L'avoir jeté dans la mer ou... Le Bernard l'Ermite étant un parasite... Mais oui, en train de manger le...
Et qu'est-ce qu'il y aurait un rapport. Brancusi est un parasite.
Ça, je vous le dis, le Bernard l'Ermite. Hein. Vous ne pouvez pas le voir, c'est moi qui vous l'ai dit. Il y a un Bernard l'Ermite qui est là.
Il a l'air de s'accrocher à...
Les rochers font penser à des espèces de pleureuses, oui. Les rochers, par rapport à cette tête, qu'est-ce que vous...
C'est par opposition.
Voilà, il y a une espèce d'opposition. C'est-à-dire qu'on a une tête bien lisse, bien précise, sculptée par un sculpteur, alors que les rochers sont des rochers. Hein. Donc c'est un peu l'inverse, effectivement. Vous l'avez bien souligné. Hein. Il y a une grande différence entre ça, une œuvre faite par un artiste qui s'appelle Brancusi, qui fait du poli, du précis, du lisse. Et à côté de ça, vous avez des rochers qui sont des gros balours de rochers, qui sont posés dans l'aquarium, qui sont des rochers pris là, qu'on a mis là, et qui sont l'inverse. Ils ne sont pas taillés par la main de l'homme, ils ne sont pas polis, etc. Ils sont contraires, un peu mal dégrossis, si j'ose dire. Donc on a effectivement cette espèce de différence hein, entre des espèces de pleureuses de rochers brutes de décoffrage et ce sommeil de Brancusi, c'est le nom de la sculpture, hein, qui est au contraire vraiment l'inverse. Hein. Et à vrai dire, le Bernard l'Ermite, il a fait sa maison dans le Brancusi. C'est-à-dire que le Brancusi est creux à l'intérieur. Et le Bernard l'Ermite va à l'intérieur. C'est devenu sa maison.
Mais c'est un vrai Bernard l'Ermite ou pas?
C'est un vrai.
Ah. Parce qu'on ne sait jamais.
Il n'est pas coupé en deux comme Daniel Hurst. Alors l'idée qu'il y a derrière ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez là-dedans?
Oh, une idée de mort.
Une idée de mort?
De la destruction des sociétés.
De récupération.
Bah oui, les Bernard l'Ermite, c'est des opportunistes.
Oui. Ils se réfugient dans l'art. Ils se réfugient dans l'art, le Bernard l'Ermite?
Il a du goût.
Du goût.
Ça fait épave.
Ça fait épave.
Ah, ouais. Vestige marin.
Un côté vestige marin, fond marin. Ça vous inspire quoi tout ça?
On a trouvé toutes sortes de statues.
On a trouvé toutes sortes de statues dans les fonds marins. Donc ça rappelle ces fonds marins. Regarde, on a trouvé des épaves antiques ou d'ordre des statues depuis parfois des millénaires.
Donc un jour peut-être.
L'idée de la destruction.
De la mer.
De la mer qui détruit.
Ou de la conservation.
Ou de la conservation, ou des deux. Mm-hmm. Et puis il se passe encore autre chose là-dedans. Hein.
Il y a de l'eau.
Il y a de l'eau.
Il faut nourrir.
Il faut nourrir le Bernard l'Ermite, oui.
Oui, et donc.
Ça peut être le contraire aussi. L'origine de la vie, il faut.
Une idée de. Eh oui, l'eau est après tout à l'origine de la vie, vous avez raison. Ouais. Donc quelque chose qui ne serait pas du tout la fin, la mort, mais au contraire le début plutôt. Hein. Ouais. Et Bernard l'Ermite là-dedans, qu'est-ce qu'il fait?
Il vit.
Il vit sa vie. Hein.
C'est le seul élément vivant.
Tu vois, en fait, Bernard l'Ermite, il est là, il vit sa vie à l'intérieur de cette nature reconstituée. Hein.
Oui, pour lui, un Brancusi, ça a aucune valeur.
Non, le Brancusi, il ne voit pas, il ne sait pas ce que c'est. Donc il vit sa vie, il est à l'intérieur du Brancusi, bon, ça pourrait être autre chose, il a sa maison, point la ligne. Hein. Ok. Alors ça vous plaît? Non, toujours pas.
Ah, ben,
c'est curieux.
On préfère le Brancusi, quoi.
On voit que le Brancusi, on voit pas le reste. Bon.
Si
on voit le reste.
Ah bah oui.
Le reste est sombre. Bah, si vous allez au fond de l'eau, ce sera pas clair. Hein.
Heureusement qu'il y a la lumière.
C'est triste. Est-ce que le sombre est forcément triste?
Non.
Pas forcément.
Moi, je vois une espèce de
nativité. Des spots. Ah bah il y a des spots qui éclairent, oui.
Je vois une espèce de nativité au fond d'un aquarium.
Une nativité. Ah, vous verriez le petit Jésus, la Vierge et Saint-Joseph, oui. Bon, c'est votre côté christique. Ok. Bon, eh bien, écoutez, on va quitter la nativité, parce que l'heure avance, hein, et puis on va aller vers ça. Ah.
Ouf.
Ouf.
On voit clair.
Hein, on voit clair. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
On dirait
d'autant plus
une
superposition.
Superposition
de photos, c'est-à-dire deux photos l'une au-dessus de l'autre. C'est ça?
Ou plus.
Ou alors trois photos.
Il n'y a pas de collage.
Il n'y a pas de collage. Donc c'est deux photos superposées. Au moins deux. Alors, l'idée, ce serait quoi, là, peut-être?
C'est une jolie femme.
Jolie femme.
En fleurs.
En fleurs.
Élégante.
C'est la même que tout à l'heure.
C'est asiatique.
Ah, ah non, c'est, ce sont des artistes toujours différents. Hein.
Ouais.
Elle n'a pas la même.
Non, ni les mêmes yeux.
Non.
Elle est lentille, mais c'est
projection. Alors, ce serait une projection, c'est-à-dire.
Ah oui.
Voilà. Tiens, en fait, c'est une projection sur quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on a mis quelqu'un, cette femme, et on a projeté dessus une vue avec ses fleurs. Alors ça, ça vous plaît, ça vous va?
Oui.
Ah.
Mais c'est joli.
Ah, dès que c'est joli. Joli. Voilà. C'est joli. Bon, vous juste, c'est pas joli, ça c'est vrai. Hein.
Ah, mais c'était intéressant. Là,
c'est... Donc ça, ça vous plaît.
Mais c'est décoratif.
C'est décoratif? Non, ça bouge pas, c'est une photo. C'est... voilà, c'est statique.
Bon.
Allez, on se fait la dernière.
Oui.
Allons-y.
Ah, un Christ.
Un Christ. On est mystique ce soir. Hein.
Oui, oui. Non, c'est pas ça.
Un Christ. Pourquoi pas?
C'est grand, c'est en quoi?
C'est
du patchwork, donc des tissus que...
Non, non,
non, du papier.
Ce sont des languettes.
Des languettes de quelque chose.
Des languettes.
De feutre.
Des languettes de feutre.
Ou du papier.
C'est à quelle dimension?
Ça a l'air grand.
C'est grand.
Non, c'est l'intérêt du tissu, parce qu'on voit la tache.
Du tissu.
La tache au-dessus.
Ouais.
Non. Ça peut être pas la tache au-dessus.
Non.
Une sorte de rideau, c'est du tissu. Une sorte de tenture.
Autant prendre du tissu qui est déjà coloré.
Dimension, vous ne m'avez pas dit la dimension.
C'est grand.
C'est grand.
1 mètre par 2 mètres.
1 mètre par 2 mètres. Donc c'est grand. C'est du tissu.
Comme des languettes qui ne sont tenues que par la partie supérieure.
Des languettes tenues par la partie supérieure. C'est-à-dire que là-bas, le bas est libre. Hein.
Des
bas libre, c'est la partie supérieure qui est cousue.
Des
hein.
Post-it.
Voilà, un peu comme des post-it. Des post-it en tissu. Hein. Bon, et alors ça, ça vous inspire quoi?
C'est joli.
C'est joli.
C'est joli.
Oui.
Encore.
Hmm. C'est collé.
C'est
joli. Bon.
C'est méchant.
Ah, on voit que c'est des cours on peut laisser aller. Ça, hein. C'est, parce que c'est joli, vous ne me le diriez pas en atelier normal. Hein. Ou alors vous seriez crucifié là-dessus. Hein, tout de suite. Hein.
C'est
joli. Eh ben voilà, un mot qui n'est pas du tout sur rien d'art. Hein. Mais là, on a le droit de ne pas l'être.
C'est sympa, c'est joli.
C'est sympa. Là aussi, on a le droit de le dire. Alors on le dit. Un dégradé de couleur. C'est mignon.
Ah non, non, non.
C'est gentil.
Non.
C'est sympa.
Voilà.
C'est bien construit. Oui, c'est très... Hein. Très géométrique. Hein.
La partie supérieure simule une couronne.
Oui, il y a une sorte de couronne. On croit avoir une couronne dans la partie supérieure. Hein.
On dirait okay. des pianos encastrés les uns dans les autres.
Ah oui, avec les notes de piano. Oui. Hein. Bien.
Ah, c'est
et ça, ça vous plaît?
Oui.
Oui, oui lâchons un.
Ouais.
Moyennement.
Bon.
Moyennement. Bon, il y a des gens difficiles. Hein. Merci. Alors. Ce que je vous propose, mais on va aller peut-être assez vite pour cette deuxième partie, parce qu'il est déjà 6h15, hein, mine de rien. Hein. Ah, vous avez été tellement à regarder toutes ces œuvres qui vous passionnent que fou, on a mis du temps. Hein. Alors, ce que je vous propose, en fait, je vais vous proposer moi, parce que ça nous permettra après de débriefer plus. Hein. Je vais vous proposer moi un petit accrochage de ces œuvres. Hein. Je voulais vous faire travailler là-dessus, mais on va plutôt travailler sur la dernière phase. Hein. Je vous proposais, hein, ce que je vous ai dit, après tout, mon métier, c'était d'être conservateur de musée. Hein. Alors, il m'est arrivé quelquefois d'avoir des œuvres comme ça, puis de devoir faire un accrochage. Hein. Bon, alors je vais vous dire, moi, l'accrochage que je vous propose, vous allez me dire si ça vous va. Je m'attends au pire.
Oh, ça peut être sympa.
Ça peut être sympa. Voilà, alors, moi, je trouve qu'on a là une œuvre qui est effectivement une sculpture, vous l'avez dit, et qu'on a là une autre sculpture, alors différente, hein, mais je trouve que quelque part, on est là dans quelque chose qui n'est pas pareil. Mais l'un puis l'autre, on pourrait dire qu'il y a entre la 1 et la 4 une, j'allais dire, une sorte de cohérence. Et il me semble qu'on a là, avec l'œuvre précédente, vous avez bien dit que c'était du tissu, que c'était cousu, etc., qu'on avait là, avec ça, hein, les couleurs aussi, hein, voilà, quelque chose qui fonctionnait relativement bien ensemble.
Oui, mais celui-ci est beaucoup plus ordonné.
Pardon, celui-ci est beaucoup plus ordonné, effectivement. Hein. Et d'ailleurs, puisque cette œuvre-là est une œuvre également ordonnée, colorée, plus resserrées, hein, mais également géométriques. Hein, il me semblait qu'on pouvait avoir une proposition qui permette d'aller ensuite vers ça,
oui,
et puis vers ça. Hein. Alors vous allez me dire, voilà, quel est le lien entre ça et ça?
Le point entre deux phrases.
Voilà, le point entre deux phrases, pourquoi pas. On verra peut-être d'autres raisons. La rondeur, peut-être. Hein. Alors évidemment, une œuvre très grande, une œuvre beaucoup plus petite. Il y a peut-être quelque chose. Oui, absolument, pourquoi pas. Hein. Il me semble qu'on peut imaginer après cette pièce-là, parce qu'après tout, ça c'est une sculpture, ça c'en est une aussi, hein, c'est un aquarium, et quand même c'est en trois dimensions. Il y a une sculpture à l'intérieur, et puis il y a une dimension d'étrangeté sur cette urne ancienne, copine ancienne, avec un logo très contemporain, et l'étrangeté des fonds marins, hein, qui sont toujours spéciaux. Puis que fait cette sculpture égarée dans un fond marin, n'est-ce pas ? L'étrangeté, le bizarre, le surréel, c'est là. On est là devant, finalement, une sorte de surréalité. Et puisque le bizarre est désormais de mise, je crois que cette photographie, qui nous a fait beaucoup parler, hein, est une photographie qui correspond bien à cette idée de bizarrerie que l'on retrouve d'une manière plus tempérée, peut-être, hein, dans une plus gentille, dans une œuvre telle que celle-ci, mais qui convoque également l'idée du visage pour le réinterpréter par superposition. On superpose là, on superpose là. Après, je pense qu'on a là cette idée également centrée sur le visage, hein, de l'œil, dans une œuvre très conceptuelle, et l'exposition se terminerait de manière évidente par cette phrase.
On peut pas aller plus loin.
Ça vous va, ça, comme accrochage ? Vous êtes gentil.
Finalement,
vous êtes gentil. Bon. Mais ça ne nous dit pas tout. Et là, ça va être à vous de jouer. Alors, cette œuvre-là, c'est effectivement, vous l'avez bien dit, un carrosse un peu vibrant. D'ailleurs, cette œuvre s'appelle précisément, enfin je ne vais pas vous lire, parce qu'autrement vous auriez le nom de l'auteur. L'auteur, c'est qui, c'est quoi, homme, femme, pays? J'aime bien faire ce homme. Petit exercice. Un homme. Hein? Et il vient d'où cet homme-là? Un Américain. Hein? Âge?
50 ans.
50 ans. C'était 40 la dernière fois. On a monté, hein, toujours. Toujours. Hein? Donc on a un homme de 50 ans américain. Hein? Ça vous va, ça? Alors c'est un Français. Hein? C'est un Français qui s'appelle Xavier Veillant. Hein? Oui, il a une cinquantaine d'années. Hein? Voilà. Et là, ça s'appelle effectivement Vibration. Vous avez dit tout à l'heure que ça vibrait, etc. Hein? Donc, bel et bien, on est devant une œuvre que vous avez bien signalée tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, je vous montre le portrait de Xavier Veillant. Je trouve que c'est important que vous ayez une petite idée de la tête des gens, puisque ces artistes-là, ils sont bien vivants, gérants en os, autrement voir à quoi ils ressemblent. Hein? Voilà l'artiste en question.
C'est un bienveillant.
Et là, ça, c'est pas mal. Fallait le trouver, hein? Alors, Xavier Veillant a fait beaucoup d'œuvres, mais vous avez bien dit aussi, hein, que le cheval était facetté tout à l'heure. Hein. Voilà par exemple une œuvre de Xavier Veillant de 2010, en bois, où c'est, vous voyez, le même type de travail, hein, une sorte de résumé de la figure à des facettes. Hein. Mais aussi, c'est une œuvre à peu près grandeur nature. Hein. Voilà, hein, c'est grand. Et alors, là, vous avez une autre œuvre de lui qui représente deux chanteurs très à la mode. Hein. C'est notamment Pharrell Williams. Et là, alors c'est assez intéressant parce que les œuvres que vous avez là ont été faites en fait par une machine. C'est-à-dire que Veillant a fait poser les deux artistes en question, debout, on ne leur demande pas bouger. Il les a pris avec des photographies en 3D de tous les côtés. Il a mis ça dans un ordinateur, ce qui a permis à une machine de réaliser en 3D les sculptures que vous avez là. C'est-à-dire que là, l'artiste s'est aidé d'un ordinateur pour faire œuvre, si vous voulez. Donc ce que vous avez là, alors si vous voyez de près, vous voyez en fait les cernes du bois, c'est en bois, vous devinez d'ailleurs, hein, ici, hein, c'est donc en bois, deux bois, un rouge, un blanc, hein, et c'est donc une machine qui a réalisé, grâce à l'intervention humaine, parce que la machine seule n'aurait rien fait, hein, qui a donc réalisé elle-même la sculpture. Donc ce qui l'intéresse, si vous voulez, c'est vraiment, et c'est dans la ligne droite de ce facettage que vous avez vu avant, hein, pardon. Ah ben là, c'est en 3D, hein. c'est grandeur nature, c'est l'équivalent des personnages. Ah oui, c'est les personnages eux-mêmes, c'est un peu comme un moulage, je crois que c'est pas un moulage, c'est fait par l'intervention d'une machine. Voilà. Donc voilà pour Xavier Veillant, premier artiste que nous avons rencontré aujourd'hui. Le deuxième. Alors, allez-y, vous savez son nom.
Vasconcelos.
Son petit nom.
Johanna
Vasconcelos. Johanna Vasconcelos est une artiste qui est d'origine
espagnole,
hispanique,
portugaise. Mais elle est née à Paris. Elle est née à Paris. Donc en fait, elle est franco-portugaise. Elle vit au Portugal maintenant, mais elle est franco-portugaise. Johanna Vasconcelos. Et donc ça s'appelle Valkyrie Trousseau.
Pourquoi?
Et ben un trousseau parce qu'en fait, Johanna Vasconcelos, qui est cette jeune femme que je vous montre là, est une femme. Et au Portugal, mais peut-être pas, on m'a dit que ce n'est pas que au Portugal. Très souvent, les femmes sont très liées aux questions de trousseau, quoi. Elles cousent, elles font du tricot, etc. Il y a même au Portugal les écoles de dentelle. Il n'y a pas qu'au Portugal. Et donc, Johanna Vasconcelos reprend ça, un métier très féminin, n'est-ce pas ? Ce n'est pas les mecs qui vont faire du tricot, quand même. Donc, si vous voulez, elle reprend un métier très féminin pour, j'allais dire, modifier ça. Parce que finalement, on ne va pas faire des œuvres avec du tricot, franchement. Tricot, c'est fait pour les femmes qui regardent la télé ou qui étaient au coin du feu autrefois. Le tricot ne peut pas faire œuvre d'art. C'est justement ce défi que reprend Johanna Vasconcelos, disant, bien sûr que si. C'est-à-dire qu'elle reprend cette technique qui est soit complètement féminine et donc pas artistique, parce que les femmes ne peuvent pas faire de l'art quand même. Deux, qui est complètement, ethnique d'une certaine manière, et uniquement domestique. Et elle fait de ça, qui ne peut pas être de l'art justement. C'est-à-dire qu'elle fait de l'art avec ce qui ne peut pas en être. Enfin, ce que vous savez, on a des idées reçues. Pendant des siècles, on a imaginé que le tricot ne pouvait pas du tout être artistique. Mais bien sûr, il y a des gens qui font des choses en tricot. Ma mère m'a fait récemment une sculpture en tricot très belle, par exemple. Bon, je tiens beaucoup de reste. Je n'aurais pas dû le dire parce que vous allez lui en commander. Mais non, parce qu'elle est prise, elle a déjà beaucoup de commandes. Voilà. Donc, on peut faire du tricot. Pardon ?
Une photo de ton éléphant.
Absolument. Ah oui, la prochaine fois, je vous amène mon éléphant. Puisque c'est un éléphant.
Oui, compris.
Avec la photo.
Je mettrai peut-être l'éléphant. Enfin, on verra.
L'éléphant lui-même.
L'éléphant lui-même.
Il est transparent.
Il est amenable. Bon. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que, si vous voulez, Johanna Vasconcelos, nous prend au jeu. Vous savez, on est bourré de préjugés. On est bourré de préjugés. Une femme, pendant des siècles, n'a pas pu faire de l'art. Manque de bol, c'est une femme et elle en fait. Deux, les travaux de femmes ne peuvent pas être des travaux artistiques, parce qu'une femme ne peut pas faire de l'art avec du tricot et de la dentelle. Eh bien, si, justement. En plus, elle vient d'un pays, le Portugal. Portugal, c'est pas l'Espagne, c'est pas la patrie de Velázquez, c'est pas la France, la patrie de Poussin et de Watteau. C'est pas l'Italie non plus, le Portugal. Il n'y a pas un Léonard de Vinci au Portugal. Portugal, franchement, c'est un pays qui est entre tout et qui donc n'est pas grand-chose. Eh bien, si, elle est portugaise, elle fera de l'art quand même. Donc si vous voulez, elle a tout faux et pourtant elle fait de l'art. Et aujourd'hui, Johanna Vasconcelos est à vrai dire une des artistes les plus prisées dans le monde entier. Et donc elle fait ça, c'est-à-dire qu'elle fait avec ce qu'elle est et ce qu'on a. Imaginez, il faut pour nous ne pas être de l'art, parce qu'encore une fois, on est bourré de préjugés. Nous autres, humains, on a décidé, on ne va pas en sortir. L'idée de la découverte et d'un ailleurs, de l'étrangeté, alors ça, non. Il faut que ce soit dans les canons, dans la droite ligne, il faut être dans le chemin. Si on est en dehors, ça ne va pas. Et donc, elle, en dehors du chemin, et elle fait de l'art. Alors, elle fait ça aussi, par exemple. Ça, c'est très marrant. Et alors là aussi, c'est vraiment... C'est très, très marrant. Alors, en fait, ce que vous voyez là, c'est un lustre énorme, mais qui est fait avec des tampons hygiéniques. Et là, c'est vraiment une manière, de nous, notamment à nous, messieurs, de nous envoyer la chose à la figure. C'est-à-dire que, c'est, d'abord, évidemment, ce qu'il y a d'amusant, c'est l'énormité de ce lustre qui reprend l'idée des lustres en cristal. Ce n'est pas des cristaux, ce sont des tampons hygiéniques. Donc, vraiment une manière de revendiquer ce qu'elle est et, quelque part, de faire un grand clin d'œil.
Et le titre est très provocateur.
The Bride, et la mariée.
Et le lieu de présentation.
Alors, je vous ai présenté ça également à Versailles, puisqu'elle a une grande exposition à Versailles, à mon avis très réussie. Et vous en voyez ici un exemple. Autre vue d'ailleurs de l'exposition versaillaise, ça. Alors, ça, c'est très, très intéressant. En fait, ce sont deux lions sculptés en marbre noir. des lions superbes, sculptés, taillés comme de la vraie sculpture. Hein. Simplement, elle les a fait recouvrir par de la dentelle. Hein. Alors, de la dentelle de... Pardon ? Alors, en fait, c'est de la dentelle. Je pensais que c'était du crochet, et c'est de la dentelle, et de la dentelle d'une ville du Portugal. Je crois que c'est Coimbra, parce que chaque ville du Portugal, c'est comme en français, c'est la dentelle. Il y a celle du Puy, celle de Calais, etc. Là, c'est la dentelle de je sais pas quoi. Enfin, de j'aurais dû, mais je me rappelle plus. Et donc, si vous voulez, ce qui est amusant, c'est qu'elle a finalement corseté ces lions en marbre, hein, des vrais lions sculptés, hein, comme Bernin savait en faire. Hein. Elle les a corsetés dans de la dentelle.
Hein,
comme si la force du lion, le lion c'est le roi des animaux, concentré dans le marbre, était pris. Vous connaissez la fable de La Fontaine, le lion qui est pris dans le filet. Hein, c'est un peu ça. Elle est française, hein, Joana Vasconcelos. Hein, donc une femme d'origine portugaise, hein, mais quand même. Donc elle est entre ces deux cultures. Hein, donc c'est intéressant de la voir avec ce travail de femme, la dentelle, bridée d'énergie léonine qui est celle de la puissance du lion. Ah, c'est d'une virtuosité inouïe en plus. Hein. C'est à la fois esthétiquement étonnant, mais d'une virtuosité énorme.
Mais c'est elle qui fait la dentelle ?
Alors, pas forcément. Hein. Elle a un atelier comme Lebrun ou Rubens. Hein. Lebrun, elle a moins de gens que Rubens ou Lebrun. Hein. Rubens ou Lebrun, c'était quelquefois une centaine de personnes. Hein. Là, elle a un atelier avec une vingtaine. Hein. C'est pas pareil. Hein. Mais quand même, elle a effectivement avec elle des gens qui travaillent et qui réalisent avec elle hein, les œuvres qu'elle a conçues. Hein.
Mais comment est-ce qu'elle a pu faire ça ? C'est incroyable, le lion lui-même.
Ouais.
C'est moulé dessus.
Ah non. Le lion, c'est une sculpture en marbre. Voilà. Et la dentelle est faite par-dessus. Ah, mais c'est. Ne me demandez pas, moi qui suis incapable de faire un nœud, je ne sais pas. Mais c'est.
C'est elle qui sculpte.
Ah non, c'est pas elle qui sculpte, non. Mais Rodin n'a jamais sculpté ses œuvres, hein, vous savez. Hein. Contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs. On croit tous que Rodin a sculpté ses œuvres.
Il a modelé,
mais il n'a pas sculpté. Hein. Parce qu'on croit, quand on voit le penseur en marbre de Rodin, on croit qu'il a sculpté. Pas du tout. Rodin a fait le modelage qui a été ensuite sculpté. Les sculpteurs sculptent rarement, hein, contrairement à ce qu'on croit. Hein. On a eu un atelier sur la sculpture. Alors, et ça ? Alors, homme, femme, quel âge, quel pays ? Amérique ?
Non.
Un Européen. Quel âge ?
60 ans.
60 ans. Ah, jeune. Bon. Alors jeune, on va dire jeune alors.
Oui,
60
ans.
60 ans, c'est jeune. Hein. Un jeune Européen de 60 ans, ça vous va ? C'est un garçon, fille ?
C'est pas elle qui a fait ça.
Ah non, c'est forcément un artiste. Ah, ben oui. Ah, mais il y a peut-être d'autres artistes qui ont utilisé le tissu.
C'est un peu la palette de Toffoli.
La palette de Toffoli ?
Oui. Ah oui, les couleurs, oui, c'est celui-là.
Alors, nous avons là une œuvre d'un artiste de sexe... De sexe quoi ?
Indéterminé.
Masculin. De sexe masculin, effectivement. Qui a effectivement une soixantaine d'années, un peu plus. Et qui est malien. Il s'appelle Abdoulaye Konaté. C'est donc un artiste malien qui a fait l'œuvre que vous voyez là.
Il utilisait du paille africain.
Il utilise du tissu. Vous savez qu'au Mali, il y a une grande spécialité dans le domaine du tissu, et notamment du tissu teint. Hein. On fait au Mali ce qu'on appelle des bogolans, qui sont des tissus avec des impressions teintes. Il y a des tas de manières de faire du bogolan. C'est très, très étonnant, d'ailleurs. Hein. Et donc, Abdoulaye Konaté a beaucoup travaillé dans ce domaine. Voilà. Ce à quoi ressemble Abdoulaye Konaté. Hein. Ouais. C'est un peu. Et voilà des œuvres de lui. Alors, qui peuvent être quelquefois, vous voyez, très très abstraites. C'est amusant parce que là, vous retrouvez dans cette œuvre qui s'appelle Bosnie-Angola-Rwanda. Abdoulaye Konaté, c'est très amusant. Enfin, très amusant. C'est pas amusant. C'est très intéressant. C'est un homme qui s'intéresse beaucoup à l'état du monde. Vous savez, on a l'impression, nous autres gens d'Occident, enfin, on l'avait jusqu'à ces dernières années, peut-être. que, en gros, c'est les Occidentaux qui s'intéressaient au monde, et puis les Africains, franchement, de toute façon, ils sont à crever la faim dans leur désert, donc franchement, ils s'intéressent à rien. Et bien, c'est pas le cas. Abdoulaye Konaté, par exemple, il s'intéresse beaucoup à l'état du monde, à la géopolitique universelle, et c'est quelqu'un qui, par exemple, là, dénonce, en quelque sorte, les crimes de Bosnie, d'Angola, du Rwanda, et vous voyez qu'il fait un peu la même chose que ce que fait Boltanski en Occident, c'est-à-dire qu'il met sur le devant des tissus, des vêtements, hein, qui rappellent ce que Boltanski déjà voulait dénoncer, quoi. Donc, c'est une œuvre finalement très, très politique. Abdoulaye Konaté est un artiste très, très politique. On le voit aussi dans une œuvre telle que celle-là. Hein. Ces œuvres sont toujours des... Alors, il travaille le tissu exclusivement. Hein. Là aussi, c'est souvent... il fait souvent réaliser par des gens les œuvres qu'il a envisagées, hein, même s'il prend aussi sa part, hein, mais souvent, il les fait réaliser. Et là, vous voyez, alors c'est grand, hein, ça fait 2 mètres de haut chaque fois, hein, et ça fait, 6-7 mètres de large. Hein, voilà. Donc une grande grandeur. Il y a toujours un côté un peu pendouillant comme ça, hein,
ben oui,
qui est d'ailleurs très, tout à fait ce qu'on voit au Mali, dans les souks, etc. Hein, c'est vraiment tout à fait ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelqu'un qui récupère la culture de son pays, mais en l'universalisant. Hein. Et c'est très intéressant parce que c'est un artiste qui vraiment a saisi son africanité pour la rendre universelle. Et ça, c'est très fascinant, et un artiste vraiment intégré au jeu politique du monde.
Pourquoi l'initiation ?
Ça, il faudrait demander à l'artiste, je ne sais pas.
Ouais.
Peut-être, je trouve, il y a différentes manières de voir. Peut-être, vous voyez qu'il y a, il y a l'Amérique, mais là aussi, il y a du blanc, ça peut être l'Amérique, mais aussi la France. La France aussi, c'est la France qui a offert cette œuvre à l'Amérique. Hein. Et voilà, il y a l'URSS, il y a le Japon, là il y a Israël, en fait on ne le voit pas, mais voilà. Donc il y a toute une série d'éléments comme ça. Ça peut être quelque chose qui peut être pris comme une sorte d'initiation du monde. Alors en même temps, il y a des tas de choses, il faudrait regarder tout de très près, mais par exemple ce personnage-là, il a sur lui des quantités de petites breloques qui pendent, hein, qui sont des petits trucs en tissu tourné, et ça, c'est très, très malien, mais très africain, subsaharien. Ce sont des espèces de gris-gris, hein, que l'on a sur soi, et qui protègent et qui éloignent le mauvais œil. Hein, voilà. Et donc il les accroche, il les met parce qu'il veut amener une sorte de bonnes nouvelles, en quelque sorte. Hein. Et c'est donc une œuvre très, très altruiste, très, très généreuse, hein, et en même temps très, très universelle, très politique. Ça, alors, là aussi, vous connaissiez
Anish Kapoor.
Anish Kapoor, vous le connaissez tous, parce qu'il a fait l'objet d'un gros scandale à Versailles l'année dernière, hein, puisqu'il avait fait une œuvre à Versailles, et que l'œuvre a été taguée, etc. Anish Kapoor a deux problèmes. Un, il est indien, ça c'est déjà pas bien. Deux, il est juif, alors ça, c'est pire que tout. Hein. Alors évidemment, l'œuvre a été taguée, bien entendu, évidemment. On ne peut quand même pas laisser un artiste faire son œuvre. Hein. Voilà. Surtout si il est juif. Hein. On croyait qu'on n'a pas changé d'époque. Hein. C'est vraiment une chose épouvantable. Donc l'œuvre d'Anish Kapoor a été vraiment malmenée, de la manière la plus épouvantable qu'il soit, je trouve que c'est une honte pour ma part. Un artiste doit, un artiste fait quelque chose, on lui laisse faire ce qu'il a à dire. Et alors surtout, les inscriptions antisémites qu'il y avait dessus étaient une horreur, c'était une épouvante. Voilà. Et Anish Kapoor est un artiste très important, il est anglo-indien. Hein. C'est un artiste vraiment très, très intéressant qui, justement, a l'intérêt de combiner sa nature indienne avec sa nationalité britannique, sa religion. Donc, justement, ça offre des richesses formidables qui donnent ce que vous avez bien senti. C'est-à-dire une œuvre qui est très géométrique, etc., et en même temps très puissante sur le plan de ce qu'elle a à dire. C'est-à-dire que vous avez... Alors, je vous montre Anish Kapoor. Hein. Voilà. Et Anish Kapoor est donc un artiste qui, dans ses œuvres, va donner toujours une dimension très, très, très puissante sur le plan du message. Hein. Et ça, c'est vraiment, je trouve, la force du travail d'Anish Kapoor. Là, par exemple, vous avez des travaux qu'il a fait, mais anciennement, qui a fait une sorte de petite montagne. Alors, dessus, vous voyez, il a mis des pigments. Hein. C'est toujours la même chose que tout à l'heure. C'est pas de la peinture, hein, qu'il a versé sur le... C'est des pigments qu'en pluie, il a fait descendre sur les sculptures. Hein. Donc, il y a comme ça un côté léger, une sorte de neige pigmenteuse qui vient recouvrir les sculptures. Et c'est également lui qui a, par exemple, réalisé ça, que vous avez peut-être vu. Parce que ça a été présenté dans le cadre de Monumenta au Grand Palais il y a quelques années. Hein. Et vous voyez que c'est une chose très, très impressionnante, ça s'appelait Léviathan.
Hein. C'est immense.
Ah, c'est énorme. Hein. Vous avez des personnages là, vous voyez à quoi... Hein. C'est donc énorme.
Et on rentrait dedans, c'est ça ?
On pouvait rentrer dedans, oui. On pouvait rentrer. C'est une sorte de boule, mais plus que ça, hein, parce que ça continue par là derrière, ça allait dans les autres nefs du Grand Palais, c'est une espèce d'énorme chose, un Léviathan. C'est de, vous voyez, le Léviathan, c'est l'animal de la fin du monde. Hein,
voilà, hein. C'était fait sur place.
Pardon, c'est fait sur place, c'est dégonflé sur place. C'est une œuvre absolument énorme, mais qui est, évidemment, qui, vous comprenez bien l'idée. Hein, l'idée d'abord, c'est un peu comme le jaune tout à l'heure, de nous on entre là-dedans, on est impressionné. Quoi, hein. Mais en plus, il y a une dimension mystique, mythique. Mais justement, la dimension de Anish Kapoor, c'est ça qui est passionnant. Il est indien, il est juif, il est britannique. Donc, si vous voulez, toutes ces richesses de ces domaines culturels associés lui permettent d'assumer des œuvres comme ça. Hein. Donc, c'est passionnant, si vous voulez. Hein. On a là quelque chose qui amène plus que ça retranche. C'est pour ça que ce qui a été fait sur le Versailles, je trouve, est totalement épouvantable. Quoi. Et voilà, c'est passionnant parce qu'on a là un artiste qui est tellement riche de tas de choses qu'il propose cette espèce de choses étonnantes, ce monstre hein, qui vient envahir la nef du Grand Palais. Hein.
Mais c'est en quoi ?
Oui, c'est vrai. C'est une sorte de matière plastique. Une espèce d'énorme ballon gonflé. Donc c'est tout à fait passionnant. Un artiste très, très spectaculaire. Alors, origine de cet artiste. Vous avez encore 10 minutes ?
Oui.
Oui.
C'est vous ?
Origine de cet artiste. Oui, moi aussi.
C'est gentil.
Une idée ? Oh, vous étiez pas mal tombé sur le truc. Sur hein.
L'américain ?
Non.
Chinois ?
Chinois. C'est un artiste chinois qui s'appelle Ai Weiwei.
Ah bah oui.
On connaît
plus pourquoi. Vous connaissez. Hein. Et donc
c'est une vraie. C'est-à-dire l'urne que vous avez là est une vraie urne chinoise de l'époque des Han, c'est-à-dire du en gros 1er siècle. Hein. Voilà. Les Han, c'est en gros, enfin j'ai pas mes dynasties chinoises absolument en tête, mais c'est en gros 3e avant, 3e après. Hein. Voilà, le Christ est né à l'époque des Han. Hein. Ou des Han, voilà, des Han, précisément. Et voilà. Et donc, Ai Weiwei ici a pris une céramique Han qu'il a sur laquelle il a peint Coca-Cola. Bon, des écrins de céramique comme ça, il y en a 3 millions au mètre carré en Chine. Hein. Donc c'est quelque chose vraiment de très 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 fréquent. Hein. Il y en a beaucoup. Donc c'est pas un crime patrimonial. En même temps, enfin, c'en est un petit quand même. Hein. Mais c'est pas un crime patrimonial absolument épouvantable. Puis on pourra, si on veut, le Coca-Cola, vous pouvez acheter l'œuvre pour ça. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment, mais vous l'avez bien dit, hein, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus, le côté rapport présent passé. Et le côté envahissement de la planète, notamment par la culture américaine, quoi, hein, qui est là. Alors, elle a du bon, elle a du moins bon. Ça, c'est peut-être pas le meilleur, même si on a le droit d'aimer le Coca-Cola quand même. Voilà, donc, alors, Ai Weiwei, il ressemble à un vieux sage chinois. Hein. Voilà. Grassouillet. Oh, ben, Confucius, il avait des formes. Hein. Voilà. Alors, c'est lui aussi qui a fait, par exemple, ça. Hein. Alors, qui est moi une œuvre qui me fait frémir hein. Parce que vous voyez, donc c'est une photo qui est apprise de lui et il est en train de dropping, c'est-à-dire de laisser tomber encore une de ses pauvres urnes Han. Hein. Donc il laisse tomber, elle se casse au sol. Donc c'est vraiment une œuvre. Alors, encore une fois, des urnes comme ça, il y en a des tonnes, mais quand même, il casse devant nous une vraie œuvre qui date de 2 millénaires. Donc c'est oui, c'est vraiment une œuvre. Enfin moi c'est une œuvre qui me bouleverse, qui me dérange. Mais justement les artistes sont pas là non plus pour faire un long fleuve tranquille si vous voulez. Hein. Donc c'est quelque chose qui évidemment qui pose des tas de questions sur qu'est-ce que c'est que le patrimoine. De questions sur le patrimoine actuellement on a intérêt à s'en poser hein, comme vous le savez, hein. Y compris en France hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est donc une œuvre qui quelque part est très très dérangeante. Hein. Et qui est évidemment très signifiant.
Hein, si la photo du milieu était ratée.
Et toute la géométrie qui est autour, hein, avec les ronds.
Ouais. Et puis c'est lui qui a fait également ça. Alors, ça, c'est une. Inutile de vous dire que Ai Weiwei est assez mal vu en Chine. Hein. Ça se passe très mal. Il a été emprisonné avec sur reprise. Les autorités chinoises l'ont tabassé également. Voilà. Bientôt, s'il ira aux États-Unis, puisque la torture est en voie de réinstallation, bon, on pourra le torturer aux États-Unis. Enfin, tout va bien hein, dans le monde actuel. Et voilà. Et il se trouve que, bien entendu, sa maison à Pékin a été rasée. Et ce que vous avez là, dans cette installation, c'est les restes de sa maison. C'est-à-dire qu'il a récupéré, une fois que sa maison a été rasée, ce qu'il en restait. Et il en a fait l'installation, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça s'appelle « Souvenir de Shanghai », parce que sa maison à Shanghai a été éliminée. Et voilà ce qu'il a fait de ce qu'il en reste. Donc, alors, je veux dire, c'est un artiste très politique, hein, mais qui a risqué sa vie hein, pour vraiment dire ce qu'il pensait du régime chinois. Il s'est mis, par exemple, tout nu devant une cité interdite. Ça n'a pas beaucoup plu. Enfin, vous voyez, parce qu'il fait aussi ce qu'on appelle les performances. Hein, c'est-à-dire, vraiment, il... Et donc, voilà, c'est un artiste qui donne de sa personne, qui est vraiment très, très engagé. Ça... L'aquarium avec le Bernard Rivière. Alors, un artiste de quel âge, de quelle origine et de quel sexe ?
Chinois.
Un Chinois ?
Non, pas deux.
40 ans.
Un Chinois de 40 ans ? C'est votre dernier prix ?
Non, bien sûr que non.
Plus de 40 ans ? Plus de 40 ans ? Eh bien, c'est un Français qui est né en 62. Voilà. Donc il a plus de 40 ans, si je ne m'abuse.
Oui.
Hein, voilà. Qui s'appelle Pierre Huyghe. Hein. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble Pierre Huyghe.
Zoodrame, c'est sûr.
Un philosophe.
Voilà. Non, c'est un homme tout à fait normal. Hein. Simplement, il rêve un peu. Alors, Pierre Huyghe, il a fait beaucoup de choses. Dans le monde où je reviens, des artistes français, on va dire des jeunes générations, 62, c'est un gamin, hein. Les plus connus. Hein. Par exemple, il a fait ça, un documentaire de Cassel, il y a quelques années. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une sculpture très classique, on va dire. Il a mis à la place de la tête une ruche, enfin un essaim d'abeille. Et puis, il a pris une photo avec son chien. Ça, c'est son chien. Son chien, il lui a peint, parce que son chien, elle a toujours une patte peinte en mauve. Bon. Et donc, il y a le chien qui, voyait, voilà, tourne autour de la ruche, etc. Donc, ça donne une chose étrange, bizarre. Ça donne une histoire, laquelle, on ne sait pas, elle n'est pas donnée, mais c'est à chacun de la faire. D'ailleurs, vous savez, dans la plupart des tableaux qu'on voit, Poussin, par exemple, souvent, on ne connaît pas l'histoire, on se la fait, son histoire. Hein. La plupart des œuvres de Poussin, si on ne les explique pas, on ne sait pas ce qu'il y a de représenté dedans. C'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Donc, finalement, là, c'est une histoire qui est... créé, qu'on ne nous dit pas, qu'on invente, une histoire étrange, bizarre. Hein. Ce personnage qui a une tête de dessin d'abeille, c'est évidemment un peu curieux, puisqu'il intéresse beaucoup Damien Huyghe, vous l'avez bien senti dans l'aquarium, c'est l'interaction entre ce que fait l'homme et ce que la nature fait, et notamment les animaux. Il aime beaucoup les animaux, ça l'intéresse beaucoup. C'est pour ça qu'il prend beaucoup son chien dans plein de circonstances. Hein. Et là, le chien tourne autour de trucs bizarres. Quand même un drôle de bonhomme, qui est en marbre d'abord, c'est une femme même, qui a en plus un essaim d'abeilles à la place de la tête. Quoi. Donc, et les abeilles, évidemment, interviennent aussi sur la sculpture. Donc vous voyez, cette espèce de gravier dans la chaussure qui fait que les animaux font des choses qu'on s'attend pas à ce qu'ils fassent, nous autres qui voulons régner sur la totalité du monde, hein, quitte à le détraquer d'ailleurs, hein, on a peut-être oublié qu'il y avait d'autres êtres qui, eux, avaient d'autres logiques. Et bien, c'est ça qu'il étudie. Hein. La logique des animaux. Le Bernard Lhermitte, il va dans un brancusier dont il ne sait pas du tout que c'est un brancusier, dont il se fiche, sinon le brancusier, ça peut être sa maison. Et ça, c'est chouette. Hein. Bernard Lhermitte. Pierre Huyghe s'intéresse beaucoup. Bernard Lhermitte n'est pas un artiste. Hein. Pierre Huyghe s'intéresse beaucoup à cette idée qui est l'idée du hasard. Par exemple, dans une exposition récente, il avait commencé à penser un mur. Hein. C'était à Beaubourg, hein, au Musée national d'art moderne, et en pensant le mur qui avait encore tous les stigmates de l'exposition précédente, il s'est aperçu qu'il y avait de la peinture verte en dessous. Hein. Et finalement, il a arrêté son ponçage et il en a fait une œuvre. Il a dit, bah, finalement, l'œuvre, c'est-à-dire c'est le hasard. Mais là aussi, c'est une idée qui nous paraît, on se dit aujourd'hui, bon, on fait des codes pour taper sur le garçon, franchement, vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. Sauf que c'est une chose qui existe depuis des millénaires, là aussi, hein, d'une autre manière. Je vous rappelle, par exemple, que les Chinois, depuis 2000 ans, font ce qu'on appelle les pierres de paysage. Hein, c'est-à-dire qu'ils trouvent par terre des pierres qu'ils coupent. Et dans ces pierres, quelquefois, on voit des paysages qui apparaissent. C'est absolument le hasard, l'homme n'y est pour rien, c'est la nature qui l'a fait. Donc vous avez là quelque chose d'équivalent, sauf que c'est un peu différent, puisque c'est un processus un peu équivalent, mais sur quelque chose qui a été fait par l'homme. Vous savez, quelquefois, on regarde les nuages et on voit dans les nuages des formes qui apparaissent. Tiens, c'est l'impression d'une maison. Oh, tiens, il y a un éléphant. Encore un éléphant. Tiens, il y a une fleur. Hein. Et bien là, voilà, voilà une forme qui est quoi? Des nuages, des arbres, on ne sait pas. Quelque chose qui fait divaguer l'esprit, tout comme les pierres des paysages des Chinois font divaguer l'esprit. Ayons la liberté de l'œil qui regarde et qui sait s'émerveiller de quelque chose. Un nuage nous émerveille, pourquoi pas des taches sur un nuage? Alors là, vous nous aviez parlé tout à l'heure hein, d'une artiste qui s'appelle Arlan, qui, à Dijon notamment, a travaillé. Hein. Vous étiez quasi juste. À une lettre près, c'est pas Arlan, c'est Orlan, absolument. Hein. Absolument, c'est Orlan. Orlan est une artiste qui est de Saint-Étienne, elle est tout à fait française. Hein, voilà. Son vrai nom, c'est Madame Porte, hein, mais en fait, elle se surnomme Orlan. Et c'est donc une auto-hybridation précolombienne, mais elle a fait aussi des auto-hybridations africaines, etc., où elle se représente, où elle se grime, si vous voulez, en statuette africaine, etc. Hein. Alors, Orlan, je vous la montrais en chair et en os. Là, voilà. C'est elle. Hein. Oui, elle a les cheveux teints en noir d'un côté, en blanc de l'autre. Hein, et, voilà. Et alors, vous reconnaissez sur la tête hein, ces deux cornes, entre guillemets. Donc, effectivement, elle a fait du body art. Alors, moi aussi, j'ai, à titre personnel, une sorte de répulsion par rapport à ça. Mais bon, voilà, hein, elle est grande et vaccinée, majeure. Donc, elle a fait faire une opération, qu'elle a fait d'ailleurs filmer, hein, et qui est en elle-même une œuvre, ce film. Hein. Et dans son opération, elle montre comment lui enlever... Je crois, de ce côté-là, un des trucs qu'on a remis là. Hein. C'est-à-dire qu'on a ouvert, on lui a fait une espèce de corne là. Hein. Mais effectivement, comme dans certaines cultures, vous savez par exemple que les Aztèques, hein, on parlait d'Aztèques là, même si l'œuvre précédente est Maya, hein, les Aztèques se faisaient par exemple, dans les hauts niveaux de la société, hein, creuser les dents là, et vous émettre des diamants à l'intérieur, ou des pierres fines à l'intérieur. Hein. Vous savez que dans certaines sociétés africaines, on appelle ça les dégraisses à plateau, hein, on met une sorte de plateau et on incise la lèvre pour qu'elle suive le plateau. Vous connaissez les femmes girafes, à qui dès la naissance on met des colliers les uns dessus les autres et qui ont un cou trois fois plus haut que le nôtre. Hein, voilà. Donc, pardon. Ah, si on enlève les colliers, et puis tout tombe. Voilà. Donc, absolument. Donc, vous connaissez, n'est-ce pas, ça. Finalement, elle reprend ça, parce que l'Occident a toujours regardé ça, mais l'Occident n'a jamais pris ça à son compte. Elle le fait, si vous voulez. Hein. Et alors, Orlan, elle a beaucoup travaillé, en effet, son propre corps. Dans les années, à la fin des années 80, enfin à la fin du XXe siècle, dans les années 80, elle a fait par exemple des œuvres comme ça. Là, vous voyez, c'est une référence à la fameuse extase de Sainte Thérèse du Bernin, vous connaissez ?
À Rome.
Voilà. Alors là, évidemment, elle l'actualise en se mettant elle-même en scène, au milieu de nuages qui sont en plastique bulle et au-dessus d'un computer. Hein. De la même manière, sa dernière série, c'est à partir des masques de l'opéra de Pékin. Hein. Voilà, vous la voyez à chaque fois, mais qui est, à vrai dire, indiscernable sur le fond, qui reprend les motifs du masque. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs techniquement comment il y arrive. Enfin, il y arrive. Parce que ce que vous avez, c'est donc des photos. Et vous avez peine à la voir, mais elle est là à chaque fois.
Oui, on la voit.
Et elle reprend les motifs des masques de l'Opéra de Pékin. Et là, une petite idée, sexe, âge et qualité, si j'ose dire. Oh, c'est un petit jeu pas bien méchant, mais pour nous permettre... Homme-femme ? Femme ? Âge ?
30 ans.
Nationalité ?
Japonaise.
Eh bien, nous avons là une petite Française qui s'appelle Valérie Belin, enfin petite. Elle est née en 64. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Qui est donc photographe. Alors, je vous montre une photo de Valérie Belin. Voilà. Et qui donc fait des photos. Elle a beaucoup travaillé à faire des photos très hyper objectives au départ. Hein. Par exemple, je vous montre là. Ça nous rappellera d'ailleurs quelque chose qu'a fait, mais d'une autre manière, Jeff Koons, c'est-à-dire des photos de mannequins. Jeff Koons, c'est des photos de figures en cire, hein, et de figures célèbres. Elle prend des mannequins anonymes, et elle en fait des portraits. Hein, Voilà, c'est le cas de ce que vous avez ici. Et alors, c'est pas à la manière des studios Harcourt, hein, mais d'une manière, j'allais dire, un peu approchante. Hein. Et puis, de la même manière, elle a fait, par exemple, toute une série d'œuvres sur des mariées marocaines. Alors, elle les fait poser de manière comme ça, très perpendiculaire à l'objectif, hein, avec, vous voyez, tous ces ornements, hein, qui en font presque une sorte de divinité égyptienne. Hein. On a l'impression de Callas dans le Pasolini, la Phèdre Pasolini, enfin, la BD plutôt Pasolini. Enfin bref, quelque chose de vraiment tout à fait impressionnant, mais qui est en fait une image objective, mais tellement objective qu'elle devient impossible d'une certaine manière. Hein. Elle a pris comme ça aussi des bodybuilders, vous savez, des gens qui font de la gonflette, hein, et qui sont tellement bodybuildé, c'est là qu'on dirait. En plus, elle les a fait se graisser, vous savez, comme les pugilistes antiques, hein, et on dirait des bronzes. Vous savez, des bronzes hellénistiques. Alors, je ne l'ai pas montré, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais c'est un travail vraiment très, très, très intéressant. Et c'est une femme. Alors là, notre conceptuel, c'est l'avant-dernière œuvre. Homme, femme, quel pays ?
Chili.
Une femme, un homme, pays,
Amérique latine,
Grèce,
un grec. Eh bien, nous avons là, à nouveau, une petite Française, qui s'appelle Sophie Calle, vous la connaissez sans doute, n'est-ce pas ? Alors, Sophie Calle est également, hein, une des artistes aujourd'hui très très en vue à travers le monde, hein. Donc, œuvre très passionnante, je trouve. Alors, on a fait toute une série. Voilà, alors je vous montre Sophie Calle. C'est le du soleil, je crois que c'est le oui, c'est le voilà. Et Sophie Calle est quelqu'un, vous avez bien vu, hein, que c'est une artiste conceptuelle. Elle s'est toujours intéressée aussi à la dimension sociologique. D'ailleurs, avec son travail sur les aveugles, c'est aussi le cas, quelque part. Hein. Là, dans les années 80, elle a fait un travail sur les hôtels. C'est-à-dire qu'elle entrait dans des chambres d'hôtels, où les gens n'étaient plus là, mais pour photographier les restes, si j'ose dire. Hein. À quoi sont les chambres d'hôtels quand on l'a quitté, qu'on va y revenir, hein. Voilà, parce qu'il y a des quantités de choses qui montrent les gens par leur reste, hein, voilà. Alors c'est les pantoufles qui sont encore sur le plancher, c'est les vêtements sur le lit, enfin que sais-je encore. Hein. Ouais. Donc une espèce de dimension sociologique presque de l'art. Et elle a fait récemment également, enfin relativement récemment, un travail qui s'appelle « Prenez soin de vous », tout simplement parce qu'elle a eu une rupture amoureuse, en fait, hein, l'homme avec qui elle vivait l'a quitté, et de manière très courageuse, en lui laissant un mot sur une table, hein, voilà. Et ce mot se terminait par « Prenez soin de vous ». Alors, au-delà du fait que ça a beaucoup affecté, cette rupture, elle a trouvé que, bon, c'était un peu singulier comme manière de prendre congé. Donc, elle est partie de cette phrase et elle en a fait une sorte d'exposition, hein, où notamment, elle a fait jouer par des femmes, connues ou non, c'est la lecture de la lettre. Hein, et vous avez ici une photo qui témoigne de ça, mais il y en a plein d'autres. Hein, voilà. Donc là, vous avez une femme qui était en train de repasser, qui lit la lettre. Et chacune le fait différemment, évidemment. Alors, il y a aussi bien des films, des vidéos, des photos, etc. Donc, c'est quelqu'un qui fait des témoignages de la vie quotidienne, la concernant ou pas, des œuvres d'art. C'est vraiment... je trouve que c'est une très belle photo, d'ailleurs. Hein. Et qui est, en plus, très, très, très émouvante, très, très touchante, hein, mais qui est conceptuelle en sens que on part d'un concept pour faire œuvre. Et puis, on termine par ça, hein, l'œuvre peut-être la plus... Bon. Et alors qui, quoi, quand ?
Homme.
Américain. Âge ? Ça, c'est un jeune zazou. Certainement. Eh bien, c'est un homme américain, mais qui n'est pas un jeune zazou. Enfin, si, en 1942, c'est un jeune zazou. Voilà. Laurence Venner est en effet un Américain, hein, qui est un artiste conceptuel, pur et dur. Hein. Bon, l'art conceptuel a été très répandu aux États-Unis. Hein, voilà son visage. Hein. Et Laurence Venner est quelqu'un qui, effectivement, comme ça, propose des phrases, encore une fois, un peu comme des haïkus, hein, et des phrases qui ouvrent sur des possibles. Hein. Alors, quelquefois, il les met davantage en scène. C'est le cas ces dernières années. Hein. Par exemple, voilà, ici, quelque chose qui, vous le voyez, moins contendant que ce qu'on vient de voir. Hein. Hein? La grâce est un geste. Ou plutôt la grâce d'un geste. Voilà. Alors là, c'est plus mis en scène. Il y a de la couleur, il y a des traits, c'est pas droit. Vous voyez, hein? Et à vrai dire, Lance Weiner, je suis sûr que vous le connaissez. Parce que vous connaissez ça. Bon, Lawrence Weiner est un des papes de l'art conceptuel aux États-Unis. Hein.
Oui, c'est pour les trucs spatiaux, là.
C'est où, ça?
Cap Canaveral.
Cap Canaveral?
N'importe quoi,
c'est en français.
C'est en français.
C'est au Canada, là.
À Kourou? Donc c'est une œuvre qui est à Kourou?
Non.
C'est une œuvre qui est à Chagny.
Oh,
à Chagny. Les Américains savent, les Chagnotins eux-mêmes l'ignorent. À Chagny, il y a deux œuvres américaines capitales. Il y a une œuvre d'un artiste qui s'appelle Richard Serra, hein, qui est en face de l'église. Et il y a, par ailleurs, une œuvre de Lawrence Weiner qui est dans le port de plaisance de Chagny. Qui est ça? Moi, je la vois tous les jours. Je vais encore la voir tout à l'heure en allant à la gare de Chagny, n'est-ce pas? Où vous avez cette œuvre. C'est-à-dire qu'il y a, ici, à côté de Chalon, deux œuvres de deux des artistes conceptuels américains les plus importants. Alors, on aime, on n'aime pas, le problème, il n'est pas là. Hein. Sur le plan de l'histoire de l'art, vous avez là, Weiner et Serra sont deux artistes essentiels hein, de l'art conceptuel américain. Et bien, on a là, deux pas d'ici, deux œuvres qui sont totalement ignorées maintenant, évidemment. Hein. Mais je ne donne pas 50 ans avant qu'on ait des carentiers qui viennent les voir. Hein.
Et ça veut dire quoi?
Il ne faut surtout pas voir l'art de son temps. Les plus impressionnistes, on sait ce que c'est. Surtout ne pas regarder l'art de son temps d'ici que ça nous
rend. Extrait de l'opéra.
Ce serait dommage. Voilà. Eh bien, écoutez, bravo. Hein. Aujourd'hui, on est allé dans l'art contemporain.
Hein,
et du solide. Hein. Et la semaine prochaine, je vais vous proposer autre chose dans un tout autre endroit. Mais nous verrons.